Courtoisie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria. Diffusant direct mercredi 12 juillet 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Alors,
c'est à moi de parler. J'attendais que...
Ah, vous attendiez que je fasse l'annonce. Victoria... Non, nous avons été privés d'annonce.
Ah bon, alors je salue...
Parce qu'on n'a pas été sages.
Les auditeurs qui doivent être en train de fondre devant leur récepteur de radiodiffusion. Je suis moi-même assez fondu, d'ailleurs, je dois dire. Alors, autour de cette table, pour l'instant, je cite par ordre de préséance... Madame Victoria.
Que vous venez d'entendre.
Que vous venez d'entendre la voix douce. Ah.
Dont à laquelle.
Dont à laquelle. Monsieur Fournier ou Fournier.
Alain Fournier.
Alain Fournier. Pourquoi j'ai dit Jean-Charles tout à l'heure.
Parce que ça crée mieux.
Ah voilà, j'ai mélangé Fournier avec... Alors, Alain, pourtant Alain Fournier, c'est un nom qui me dit quelque chose. C'est pas vous, quand même.
Non.
Non, c'est parce que c'était pas ADG non plus, donc peut-être qu'un jour on finira par trouver le vrai, si j'ose dire. Enfin, Alain Fournier du Séché. Le docteur François Planté qui est de passage.
Oui, je passe.
Qui salue ses nombreux admirateurs.
Voilà. Chris.
Et le dernier des derniers par ordre de préséance.
Ah oui, ça. C'est la faute à Goffman.
Oui. Voilà.
Le marquis est au Portugal, figurez-vous, cher ami. Vous saviez pas ça?
Si je savais, nananère.
Ben, moi pas, et j'étais bien surpris de l'apprendre quand je lui ai téléphoné, parce que Je lui dis, allô Marquis, pourquoi n'êtes-vous pas parmi nous? Il me dit, je suis au Portugal. Et quand on sait ce que coûte un coup de téléphone sur portable au Portugal,
oui.
J'ai vraiment regretté son absence.
Pendant que j'ai la bouche ouverte, je voudrais dire tout de suite aux auditeurs de rester avec nous, bien sûr, mais de téléphoner un ou deux amis, s'ils sont en province, en dehors de la portée de nos émetteurs FM, dites-leur qu'ils peuvent nous entendre sur tv-radio.com, radio 35, ils ne seront pas déçus, vous ne serez pas déçus, je pense qu'on va faire quelques révélations très chaudes ce soir.
Vous avez des choses à nous dire, chez moi, justement, j'étais en train de me demander ce que j'allais bien pouvoir raconter. Alors, donc, je voulais dire d'abord, pour commencer, que on a l'explication, hein, pour le coup de boule à Zizou. Alors, ça n'a rien à voir, mais avant, je voudrais quand même dire, voilà, les choses suivantes. Saisi par la Direction Générale de la Consommation, DGCCRF, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, AFSSA,
bon appétit,
a estimé en janvier 2001 que la supplémentation en créatine constitue un risque actuellement insuffisamment évalué, en particulier à long terme pour la santé du consommateur, avec un risque carcinogène potentiel.
Le docteur Planté a beau être médecin, il se demande visiblement ce qu'il est interloqué. Qu'est-ce que ça a à faire avec Zidane?
Voilà. Alors je continue. En 1998, l'entraîneur tchèque Zdeněk Zeman déclarait « Il faut que le football sorte des pharmacies ». Effectivement, il faut être à l'aise pour taper le ballon. Il a accusé certains joueurs de la Juventus d'utiliser des produits dopants.
Qu'est-ce que c'est, les produits dopants?
Des perquisitions dans certains clubs italiens révèlent des stocks impressionnants de médicaments.
Lesquels?
Ah bah attendez, mais vous voudriez qu'ils soient précis en plus. Pour l'instant, laissons planer le doute. En 2002, deux cadres dirigeants du célèbre club de Turin, le patron de la Juve, Antonio Giraudo, et le médecin Riccardo Agricola s'étaient retrouvés devant les tribunaux, accusés d'avoir administré des médicaments dangereux pour la santé et des produits interdits aux joueurs. Au cours du procès, Monsieur Zinedine Zidane a reconnu avoir pris de la créatine et des vitamines
effrayant.
Par voie vénale.
Par voie vénale?
Vénale, vous êtes sûr?
Véneuse, pardon.
Oui, vénale
mais
aussi.
Peut-être aussi vénale, d'ailleurs.
Vénale aussi, mais...
Je me disais, voilà le truc que je connais mal.
J'ai besoin de vitamines pour faire 70 matchs par an, a-t-il reconnu?
S'il vous plaît, oui.
Moi aussi, je vous en vitamine.
Non.
Le docteur Agricola a affirmé que ces produits étaient utilisés pour les soins aux joueurs et non pour améliorer leur performance. Il nous prend pour des pellicoles, le docteur Agricola.
La créatine, quoi.
Ah ben, la créatine, on ne sait pas, ils disent qu'on ne sait pas. D'ailleurs, comme vous le savez, la vie étant une maladie mortelle sexuellement transmissible.
Et inguérissable,
bon. En 1900, alors, une autre méthode de dopage, ça c'est plus intéressant. Une autre méthode de dopage est l'autotransfusion de sang suroxygéné. Lors du critérium du Dauphiné libéré, disputé au mois de juin dernier, là, plusieurs joueurs se sont interrogés sur l'absence totale de réaction à la suite des déclarations du chanteur Johnny Hallyday, vantant les mérites d'une clinique où il s'était rendu pour y pratiquer une autotransfusion de sang sur les conseils du footballeur Zinedine Zidane.
Enfin, c'est du pipeau.
Ah, écoutez, moi, j'en tire la conclusion.
Mais l'oxygène,
c'est dans le monde.
En 10 secondes, en fait. C'est débile.
C'est dans le monde. Moi, j'en tire la conclusion que c'est pas très net, cette histoire, quand même. Parce que ce que vous dites, effectivement, c'est débile. Mais est-ce qu'on ne dit pas des vérités débiles pour cacher des mensonges?
Ah, il peut y avoir d'autres modalités de pharmacologie un peu plus sombres, par exemple.
Voilà.
Parce que moi, je connais pas de substance pharmacologique qui puisse transformer un clampin en voleur.
Je peux pas marquer un but contre la Juve si on met des trucs.
Difficilement.
Je
sais pas quoi.
Une injection de nitroglycérine, par exemple.
Ça peut être, ça j'en ai jamais essayé. Enfin.
Quand j'étais gamin, j'avais une mobilette. On atteignait le 120 à l'heure en mettant du triclo dedans. Après, il fallait changer le moteur, mais donc oui, c'est très possible.
Quand Zidane dit qu'il lui faut de la créatine, il avoue la créatine parce qu'on lui pose la question devant un tribunal. Mais il avoue peut-être pas tout, comme vous le laissez entendre. Qu'il lui faut de la créatine pour disputer 70 matchs par an et davantage pendant 10 ans. Le médecin de la Fédération Française de Football, Jacques Liénard, confirme en disant au Monde le 24 juin dernier, je cite, un joueur peut évoluer au plus haut niveau pendant 4 ou 5 ans, pas pendant 10 ans. Quant à la médecine sportive, sur son site caducé.net, elle nous dit que 3 disciplines sont particulièrement exposées au dopage, le cyclisme, le football et le tennis. Alors, il est permis de s'étonner quand la Fédération internationale de football commence par la voie, là encore, autorisée de son médecin, Monsieur Dvorak.
C'est le mouvement amical des footballeurs internationaux.
La Fédération internationale de football association. Jiří Dvorak, médecin-chef, et ce qu'évidemment il n'y en a pas qu'un, vous pensez bien, pour faire un si beau travail, déclare avant la Coupe du Monde que la fédération ne pratiquera, je cite, ne pratiquera aucun contrôle sanguin. Donc c'est uniquement des contrôles d'urine. Résultat toujours communiqué par la FIFA.
Ce qui s'appelle les épicènes de Mérinos d'ailleurs.
Exactement. 216 prétendus tests antidopage avant le premier tour du mondial, 192 pendant le premier tour, tous négatifs. Alors parmi les substances interdites, la caféine figure. Alors ça signifie que sur les 400 joueurs qui ont été testés, il n'y en a pas un qui a pris un café de trop. Quand on les regarde jouer, quand on a pratiqué le sport un peu soi-même à haut niveau, moyen ou bas, et qu'on voit des gens qui frisent la quarantaine surpasser en vitesse et en force des gens de 25 ans, je pense au match France-Espagne par exemple, où Zidane lui-même, encore lui, marque un but en force et en vitesse avec 90 minutes dans les jambes à des jeunes gens de 25 ans, on est obligé de se poser des questions.
Non mais moi quand j'avais 25 ans, il y avait plein de gars de 40 ans qui me battaient à la course à pied. Hein.
Est-ce que c'est un bonheur?
34 ans, c'est pas vieux quand même.
Je serais plus mitigé que Monsieur Goffman là-dessus.
Il est assez radical, Goffman.
Je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs à ces âges-là qu'à 25 ans. Tout est possible, hein. Mais j'imagine pas pour avoir et continuer à m'entraîner tout le temps, et puis pour bien connaître la pharmacologie, qu'on puisse transformer des débiles mentaux en... Tous les produits soi-disant dopants, c'est quoi? C'est les amphétamines. Mais au bout d'un moment, c'est usant, ça augmente pas la vitesse. Ça la ralentirait plutôt.
Docteur, vous sortez un peu des données du problème, si je peux me permettre, parce que nous ne parlons pas de débiles, ni mentaux, ni moteurs. Nous parlons effectivement de sportifs, de
ses voisins quand même parfois.
Et même meilleurs footballeurs du monde. Oui. Donc c'est bien évident que ni vous, ni Serge, ni moi, on va nous transformer en champions avec une piqûre.
Je veux dire, avec un suppositoire au poivre rouge, je suis sûr qu'on peut avoir une performance.
Mais même, je crois que c'est pas possible. En plus, allez nous sortir la créatine ou la créatinine comme dopant, mais il faut être con comme la mort et la douane réunie, comme disait mon instructeur dans les troupes aéroportées. Hein, c'est quand même pas possible. C'est comme si on nous disait, je sais pas, que l'extrait de pamplemousse est terrifiant et qu'on sait pas si la vitamine E est cancérigène. C'est dansant, la créatine. C'est un truc du cycle de Krebs, des acides tricarboxyliques et des machins. Il y en a comme le fumarate, c'est des vieux fortifiants des familles. À ce compte-là, l'onguent de la baie mouche à bœuf, ça va devenir aussi quelque chose de terrible.
La souris de la méjouvence, dont personne ne parle jamais.
I am flabbergasted.
Donc vous pensez qu'ils ne sont pas drogués, ils ne sont pas camés?
Bon, je pense qu'ils sont tellement niais qu'ils doivent avaler des trucs, parce que je les vois, c'est comme dans les salles de culturisme et tout, les types payent des fortunes pour avoir ce qu'ils auraient avec deux bons œufs durs excellents et de la margarine. Vous voyez
Ils s'emmerdent à bouffer de l'extrait de dur.
Ils achètent des fortunes.
Qu'est-ce qu'il y a dans l'extrait de dur? Eh bien, monsieur, je vous livre un secret grave, il y a de l'œuf dur. Incroyable. Mettez-moi deux boîtes.
Alors, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Jean-Jacques Edli, a publié il y a quelques mois un livre aux éditions de l'Archipel qui s'appelle Je ne joue plus, et il nous a décrit toute l'équipe de l'Olympique de Marseille alignée dans le vestiaire, la culotte baissée pour recevoir une piqûre. Et Tapi vient à votre rescousse, docteur, puisqu'il dit c'était premièrement c'était des vitamines, deuxièmement c'est même pas vrai.
Voilà. Je dis à l'auditrice qui nous fait remarquer quand même une chose, c'est que c'est peut-être la clé de toute cette histoire. Elle nous dit, Zidane est parti sur un coup de tête.
Oui, c'est vrai. Hein.
Voilà.
C'est vrai.
Je crois que c'est pas la peine, on n'a pas besoin
mais
de.
Mais c'est pas un coup de tête méchant quand même, c'est pas un coup de tête Benoît.
Non, ah ben
il
non,
y a mis dans le sternum.
C'est pas
dans
celui
le
qui te démanche la mâchoire.
Ouais,
c'est
qui te renvoie que le mur, il t'en donne. Non, non,
t'es un peu grand.
Hein, il a tapé dans le sternum. Et, il a peut-être quand t'étais grand, alors il a raté. Mais.
Mais moi, je pense quand même qu'ils prennent des produits. Attendez, ils prennent des produits, je suis sûr. J'avais vu le couple Ribéry. Vous avez vu les photos du couple Ribéry?
Madame Ribéry, comment est-elle, ouais. Madame Ribéry? Beaucoup de classe.
Je pense qu'il fallait que son mari ait pris quelque chose pour se marier.
Il s'est marié sous influence.
Et elle, à mon avis, elle avait un gros problème au moment où elle a choisi.
Ça expliquerait aussi sa conversion.
Et vous pouvez nous donner peut-être quelques détails?
Non, il faut voir les photos.
Ah.
Il faut voir
c'est
les photos.
Méchant, tout ça.
Ça ne s'exprime pas, ça.
D'accord.
C'est violent de raconter des choses comme
quoi,
ça.
Quoi? J'ai rien dit, j'ai dit tout simplement qu'à mon avis, il avait pris quelque chose avant de se marier.
Moi, je suis persuadé que Zidane, le premier, a pris quelque chose, et je voudrais en 30
secondes...
Celui qui
a pris quelque chose, c'est l'Italien, là.
Oui, qui s'est dopé. Je voudrais dire pourquoi en 30 secondes, parce que le New York Times l'appelait l'homme le plus cool de la planète, à juste titre, quelques jours avant le début de la Coupe du Monde. À juste titre, parce que son comportement dans le civil, en dehors du terrain, sur les plateaux de télévision, est extrêmement paisible. C'est un garçon particulièrement calme. Or, il a une réaction insensée sur le terrain. Il reste 10 minutes à jouer dans la finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France domine largement. Il est un élément pivot parce qu'effectivement, répétons-le si c'est nécessaire, c'est un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur joueur du monde. Et pour une insulte, quelle qu'elle soit, il donne un coup qui le fait expulser du terrain. C'est extrêmement suspect. On nous parle aujourd'hui, vous avez remarqué que tous les médias et tous les hommes politiques réalisent l'union sacrée depuis dimanche pour le défendre, pour expliquer que c'est inexcusable, mais qu'il faut l'excuser quand même à 100%. Chirac parle de son admiration et de l'admiration de la nation tout entière à tous égards, y compris pour le coup de boule.
Je vous ai remarqué hier une chose à laquelle je n'avais pas pensé, ce qui m'a vexé beaucoup, mais c'est vrai. Quand on se souvient le raffut formidable qui a été fait quand Le Pen a engueulé.
Oui, Madame
Pulvar, Pulgast Verval, je ne sais pas. Alors qu'il s'est contenté de l'engueuler, d'approcher son visage et de lui dire, on commence à en avoir marre.
Oui, c'est ça.
Ça a été un événement mondial. C'était le fascisme à visage inhumain. La bête immonde était sortie du ventre fécond.
Et ainsi de suite.
Et là, l'autre, il met un bon coup de boule. Pas Benoît, c'est sûr, mais un bon coup de boule de climat de France.
Moi, je me dis quand même, j'en ai vu. En Algérie, j'en ai vu beaucoup dans les matchs à football. Oui.
Et là, tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et ce qu'on reproche... Alors, il y a un autre truc qui est tout à fait frappant, c'est que les principaux reproches vont à l'arbitre. De quoi il se mêle celui-là?
Madame Ségolène Royal a déclaré, c'est une blessure et c'est une injustice.
Ouais.
Parce que donc, un coup de boule, ce serait normal pour tous ces gens qui ont besoin de Zidane comme pivot de leur propagande, de leur politique de multiethnique, de métissage, etc. etc. Ouais. Alors moi, je dis, il n'était pas dans son état normal. Il n'était pas dans son état normal parce que, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure,
vous n'avez pas tort, hein.
Évidentes.
Vous n'avez pas tort, mais j'ai une idée. Moi, j'ai une idée qu'on ne développera pas. Sur la modalité de stimulation possible, vous voyez ce que je veux dire, qu'on avait déjà peut-être vu il y a 4 ans, il y a 8 ans, où Ronaldinho jouait à peu près comme l'avant-centre de la jeunesse sportive de Montrouge, quoi, hein, bourré de Valium, quoi, en plus.
Alors, nos auditeurs sont sûrement nombreux à n'avoir jamais mis les pieds dans un stade, à pas savoir ce qui se passe, donc ils peuvent peut-être avaler les explications qu'on donne. On a traité sa sœur, on l'a traité de terroriste, c'est nul et non avenu, parce que il faut savoir, si on va une fois dans un stade, on sait ce qu'on va entendre. Donc, Zidane a été insulté pendant des heures, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant toute sa carrière. Le soir de la finale, une heure avant le début du match, dès que les supporters italiens sont en place, il commence à scander à 30 000. Zidane, fils de...
Figlio di puta.
Et c'est comme ça tous les dimanches. Donc, dire que c'est une réaction humaine... à une insulte, c'est nul et non avenu, ça n'est pas recevable, et je répète, il n'était pas dans son état normal, et j'ajoute qu'on va savoir un jour dans quel état il était, et pour quelle raison. et quelle mouche l'a piqué ou quelle seringue.
Vous n'avez pas vu comment il s'appelle le Macron, Bouteflika en Angleterre,
le petit voyou là,
qui a dit c'est très très mal qu'est-ce que la façon qu'on a traité M. Zidane, qui mérite quand même d'être traité avec plus de considération.
C'est vraiment le petit Macron de troisième mort de la rue de la Lyre à Alger, lui, avec les souliers pointus et la moustache.
Et c'est le même qui, il y a trois semaines, nous traitait de génocideur, d'assassin.
C'est le côté charmant et original de la poésie arabe d'Algérie. Nous ne disons pas exactement la réalité, vous voyez, M. Beketch.
Voilà.
On n'a pas oublié la soirée de France-Portugal. Ce sont les premiers admirateurs de Zidane qui ont fait 7 morts. La fête, la grande fête de la France unie dans sa diversité, le soir de France-Portugal, ça a fait 7 morts.
Avec une mairie dans la banlieue parisienne.
Là, on rentre dans un truc qui est satanique. Là,
oui. Hein.
Là, à ce niveau de folie
hein, furieuse,
ça oui. rejoint les deux mecs qui ont été écrasés par un TGV dans la nuit en téléphonant sur la voie. Hein,
Je vais téléphoner sur la voie parce que ça passe mieux.
Ça passe mieux.
Quoi, qu'est-ce qui passe? Les communications ou les trains? Les deux. Eh ben voilà. Mais effectivement,
j'y étais à Paris là. C'était terrifiant. Terrifiant. Il y avait quelques portos à motif qui étaient pas chers en disant Franchache, putain de Franchache avec la carte d'identité.
Il ne faut pas attaquer les Portugais parce que les Portugais sont nos amis. Hein.
Bah, c'est
surtout nos gardiens d'immeubles pour faire.
Oui, c'est vrai, c'est très chantant.
Des messages?
Quelques-uns, oui. Si M. Beketch veut de la nitroglycérine pour se doper, il peut aller à la pharmacie demander de la trinitrine.
Exactement.
C'est de la nitroglycérine englobée, c'est-à-dire de la dynamite réservée aux urgences cardiaques. Cet auditeur vous
j'en
embrasse.
J'en prends avant chaque émission et le pharmacien me dit surtout ne faites pas tomber le flacon.
Et alors ce soir, on est en baisse là. Ami de la Résistance, bonsoir, on l'attend toujours. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, mais c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Alors, ami de la Résistance, bonsoir, parce que tout à l'heure, je me disais, j'essaie de trouver toutes les introductions qu'on peut faire sur le même thème, ami de la résilience, ami de
variation sur un thème donné.
J'en ai trouvé plein et puis du coup c'est ça. Voilà pourquoi c'est je l'ai pas fait. Mais bonsoir quand même. Cela dit, ami de la résistance,
on peut-être si on dit ami de la résistance, on pourrait peut-être dire ennemi des condensateurs. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette formule?
Ah ça c'est du langage codé. Ah oui, ennemi des condensateurs, très très bon, très très bonne idée. On va dire ça maintenant.
Arrêtez de critiquer notre Zidane ou je viens vous mettre des coups de boule. Une dame vous dit, vous me faites mourir de rire, cher Serge de Beketch.
Vous ne mourrez pas tout de suite, abonnez-vous d'abord.
Vous avez beaucoup d'esprit.
Nous nous en piquons parfois.
Voilà, ça aussi, une explication. Pendant plus d'un mois, on a entendu, allez les bleus. Les supporters ont été exaucés. Car ce sont les Italiens qui ont gagné, qui jouaient en bleu.
Aussi, ils ont pris des bleus.
C'est excellent.
Maserati, là, il a dû repartir avec un. Comment il s'appelle, ce type?
Le Sicilien, oui. Le grand, là.
Materazzi.
Oui.
C'est presque Maserati.
Oui. Il y a une chanson.
Il est d'extrême droite.
Alors ça, c'est,
oui, c'est un méchant, hein. Mais c'est normal de le taper sur le terrain.
La nouvelle version de la chanson Zidane, il a gagné. C'était Zidane, il a tapé. Et alors là, on peut faire preuve de racisme, ça gêne personne, parce que c'est chanté par des voix caraïbes qui disent le Rital, il a morflé, le Rital, il est pas content. Alors, le Rital, ça choque personne.
Ah, c'est, non, c'est pas.
Mais si on dit le Bougnoul, alors oula, chaud devant, chaud les marrons, comme on dit là.
Évidemment.
Alors, un auditeur vous dit, on a été capable de lire les insultes sur les lèvres de l'Italien.
Oui.
Mais la force du coup de boule était-elle si importante que l'Italien soit tombé involontairement?
Ah non, visiblement. Enfin, là, j'ai vu les images.
Il a pris un coup, hein.
Non, il n'a rien pris du tout. Il s'est jeté en arrière, il a fait un numéro de cirque. Il y a sur le net, enfin sur l'internet, un petit film qui est génial, c'est l'entraînement à l'italienne, ça s'appelle. Alors, on voit toute l'équipe qui apprend à se jeter par terre dès qu'il y a un joueur adverse.
Ah, c'est l'école de la frime.
Oui. Mais non, bien entendu, c'est fait.
Il bidonne.
Mais alors,
Il bidonne même les matchs, hein, comme vous savez. Il y a 7 sélectionnés de l'équipe nationale italienne.
Oui, j'ai écouté ça, mais moi, je voudrais quand même qu'on m'explique une chose. Parce que ce que nous expliquent les radios-télévisions, c'est que les matchs en Italie étaient truqués. Hein. C'est-à-dire que les... patron de club, je m'étais d'accord, on va gagner ce coup-ci, tu vas gagner le prochain, tout ça naturellement pour gagner du fric sur le Totocalcio, c'est pour servir la soupe aux annonceurs, bon, c'est évident ça, on peut comprendre ça. Mais moi ce que je voudrais qu'on m'explique, c'est après comment ça se passe, parce que les radios et les télévisions nous disent c'est très truqué, c'était arrangé, mais les joueurs n'y sont pour rien. Comment on peut arranger un match en disant la Juve va perdre en face de Milan ou je ne sais quoi, ou Madrid, ou pas Madrid mais Milan, et on le dit pas, mais on dit rien aux joueurs.
Mais les joueurs sont inculpés et poursuivis. Alors
non, ils nous ont expliqué que les clubs allaient être ramenés au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e division, où ils vont peut-être gagner quand même quand ils seront contre la maternelle de la banlieue de Mestre. Ils vont peut-être gagner. Mais les joueurs, eux, ils sont sous contrat, donc leur contrat prévoit que quand les clubs sont rétrogradés, les contrats sont annulés et ils peuvent aller jouer dans d'autres club. Donc ça veut dire qu'ils n'y sont pour rien. Comment on peut gagner un match arranger un match sans prévenir les joueurs?
Ça semble un peu difficile. Hein,
en sifflant un penalty.
Bah oui, mais enfin, même il y a des types qui arrivent à... Bon, pas Barthez, mais j'ai connu des Gaules qui arrivaient à arrêter des penalties.
Ah oui, oui. Moi, j'ai connu un Zidane...
Barthez, c'est quand même un type qui gagne 50 000 euros par mois pour ne pas arrêter les penalties.
Et moi, j'ai connu un Zidane qui a raté un penalty contre la Chine à Saint-Etienne et qui a bien failli, à un millimètre près, le rater contre l'Italie en finale.
Oui. Non, il a pas raté. C'était un Panenka, ça s'appelle. Attendez, je m'y connais moi maintenant. Hein. Je fais un Panenka. Vous savez ce que c'est?
Pas du tout.
Un Panenka, c'est un penalty raté qui est vu réussi par l'arbitre. C'est ça, non?
Ah,
non, pas tout à fait. Mais
non, mais en gros, c'est ça. Bon. Et mieux que ça, il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que, enfin, si ça a été dit que Zidane il était 14 fois carton rouge, champion du monde du carton rouge. Mais en 2000, il avait mis un coup de boule. Alors là, à Loranaise. Hein.
À Loranaise.
Ah oui, là, l'autre il est reparti avec.
Il a donné sa mère
toutes ses dents. Il a compté, il a ramassé dans l'herbe et tout. Et il avait pris, je crois, 5 mois de suspension de.
Ah, tout de même.
5 matchs, pas ça.
Non,
un
seul. Ça,
un match
pour parler. Vous parlez du 24 octobre 2000. Et là, il avait eu un match de suspension pour un coup de boule à Kienz. Non, je crois que vous confondez avec une autre exemple. Actions.
Ah bon?
Coup de poing.
C'est pas le jour où il a attaqué l'avant, c'est le jour où il a attaqué l'assureur.
De Henri.
98, carton rouge contre l'Arabie Saoudite, 2 matchs de suspension. Je suis en train de chercher.
Là, c'est 5 matchs, celui dont on cherche pas.
Oui, oui.
4 cartons rouges, 5 matchs, et c'est un coup de poing dans la figure, ils l'ont montré.
En effet, vous avez raison. Vous avez raison, je me suis trompé. Donc, c'était un mois plus tôt qu'il avait pris un match de suspension. Enfin, rien que pendant le mondial, il a pris 3 cartons jaunes. Mais il a été exclu du match décisif contre le Togo.
Oui. Ce qu'il faudrait voir, c'est s'il n'a pas un contrat avec la Fédération française de dentisterie. C'est ça, peut-être, parce qu'il il a un contrat avec Canal Plus, donc il doit avoir un contrat avec la Fédération française des dentistes.
Non, par contre, il a un contrat avec le personnel politique français qui le donne en exemple à la jeunesse des banlieues. Or, la jeunesse des banlieues joue beaucoup au football, mais plutôt à coups de cutter et de batte de baseball. Est-ce que ça va s'arranger en septembre, après cet exemple qui a été donné à 1 milliard de téléspectateurs?
Ce soir,
tout le monde excuse?
Ce soir, si
vous voulez insulter les jeunes, il faut pas les insulter en italien, parce qu'ils comprennent parfaitement l'italien.
Oui, c'est clair.
Voilà, donc essayez plutôt le chinois. C'est pas en chinois, on peut dire des choses extrêmement désagréables, il paraît, hein. Mais même mes libéraux, ils comprennent pas. Voilà, ce que je voulais vous dire, la décade dernière, nous avons publié un article dans le Libre Journal, article intitulé, si vous voulez me passer, mon cher, celui que vous avez dans la main droite, voilà, merci. Article intitulé « Alerte rouge, un risque de pandémie mortelle pour la rentrée ». Et d'aucuns ont haussé les épaules en disant « Mais où il a vu jouer ça ?» etc. Encore, il participe à la...
Une rumeur.
À une rumeur, il vient à l'inquiétude généralisée, etc. etc. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais essayer de le faire court. Rapport d'information 451 de Madame Nicole Bricq, fait au nom de la Commission des Finances, déposé le 4 juillet 2006, c'est-à-dire la semaine dernière, sur le bureau du Sénat, une approche critique de la mise en œuvre des moyens de lutte contre la grippe aviaire, dans lequel elle explique, cette dame, tous les problèmes qui se posent, tous les dangers, tous les risques qui se pose du fait de la, d'un risque de d'influenza aviaire. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils essayent de donner des noms pour cacher la réalité, mais on sait tous de quoi on parle. Et notamment, un plan... Alors, l'expression de critique au niveau national révèle pourtant des failles dans l'actuelle préparation gouvernementale. Faible association des médecins libéraux malgré l'affirmation du principe de maintien à domicile des patients. La logistique des soins et de la capacité des établissements de santé sur le territoire national. Quels moyens réels pour la surveillance épidémiologique en France? Autrement dit, ce que dit le rapport du Sénat, c'est que, comme d'habitude, absolument rien de sérieux n'est fait, à fond, dans l'hypothèse vraisemblable d'une pandémie mortelle de d'influenza aviaire.
Mais je croyais que Delanoë avait commandé les cercueils déjà.
Oui, mais c'est Delanoë. L'État laisse faire les maires et les mairesses. Et visiblement, ils sont en retard sur toutes les dispositions qu'il faudrait prendre d'ores et déjà. Alors on voit très bien pourquoi, c'est que c'est le, toujours le même souci de ne pas semer la panique. Oui.
J'ai un message encore. Une auditrice vous dit, êtes-vous au courant d'une déclaration de Zidane dans France Football et Le Parisien du 9 août 2005 où il disait qu'il avait été réveillé par un être mystique lui demandant de revenir en équipe de France. Je pense que c'est Satan qui s'était adressé à lui.
Il a été piqué par un mystique. C'est la
réalité. C'est peut-être son agent qui lui a téléphoné alors qu'il était mal réveillé pour lui dire qu'il allait ramasser 14 millions d'euros de contrats publicitaires en prenant sa retraite en bleu.
Alors je voudrais continuer pour rassurer les lecteurs et les auditeurs sur la fiabilité de ce qui est écrit dans le Libre Journal.
Numéro 382.
Alors celui-là c'est 382. La London School of Hygiene and Tropical Medicine a effectué en avril 2006 une analyse des différents plans nationaux en vigueur au sein de l'Union européenne destinée à préparer les gouvernements et les populations contre une pandémie grippale humaine. Alors s'il n'y avait pas de risque, je ne comprends pas que tous ces gens fassent ça. Dans cette étude, la France est systématiquement classée dans le peloton de tête des pays les mieux préparés à un risque de pandémie grippale en fonction, des critères reçus. Mais, alors ce qui est toujours un mais, on explique que on est très très bien placé, mais d'une manière plus sévère, dans une lettre adressée au président de la République le 12 juin 2006, notre collègue député Jean-Marie Le Guen, président de la commission d'information de l'Assemblée nationale sur la grippe aviaire, constate que notre système de soins et plus largement la société française ne sont pas préparés pour faire face à une éventuelle pandémie. Il poursuit en citant les raisons qui expliquent ces difficultés, estime que certains de nos concitoyens, parmi lesquels se trouvent des professionnels de santé, voient leur tentation du déni l'emporter sur toute autre considération. C'est quand même formidable parce que ils accusent nos concitoyens, c'est-à-dire la base, et les médecins, d'être saisis par la tentation du déni. Alors que l'État a quand même les moyens de faire une campagne pour annoncer les choses.
Ne vous étonnez pas trop, Serge. Monsieur Le Guen est un ancien de la MNEF et un ancien sous-marin trotskiste au Parti Socialiste.
Pour d'autres, c'est l'ampleur des tâches quotidiennes qui dissuadent de se préoccuper d'un risque qui paraissait être éloigné et demeure hypothétique. De même, nos collectivités locales sont à leur niveau trop également engagées dans la préparation d'un plan de lutte. Votre rapporture spéciale, c'est une rapporture spéciale, tient à mettre l'accent sur plusieurs points qui devront faire l'objet d'améliorations significatives. Et là, je suis tout un truc, tout un paquet d'idées qui sont absolument géniales si elles avaient été émises il y a 4 ans. Mais là, étant donné que la pandémie menace pour le mois de septembre, inutile de vous dire que rien ne pourra être fait de sérieux. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est des processions, des prières.
Et puis... On ne peut pas être préparé à ce qui est totalement imprévisible.
Et...
On peut encore commander ce numéro 382 du Libre Journal.
Je crois qu'il est pratiquement... Il est comme moi,
il est épuisé.
Bon. Ouais. Enfin, on peut toujours le commander. Il en reste quelques exemplaires, mais...
On va finir par faire des photocopies de cet article.
Ça finira comme ça, voilà. Voilà ce que je voulais dire.
Vous demandez à nos amis de francecourtoise.info de le mettre en ligne, peut-être.
Nous n'avons aucune relation avec les gens. C'est ça le problème.
Je crois que c'était des amis, quand même.
Pas du tout. Ce sont des gens qui ont pris la décision de faire une mise en place du journal sur le net. Et voilà, je n'ai aucun contrôle sur eux. J'en suis bien triste, d'ailleurs, parce que on pourrait travailler ensemble, mais ça n'est pas le cas.
Bon.
Voilà. Est-ce que nous avons notre correspondant au téléphone? Alors, je vous demanderai, messieurs et madame, de coiffer vos casques, si ça vous intéresse. Ça ne vous intéresse pas, vous pouvez fumer une cigarette, c'est pas... Hein, c'est pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter toutes les bêtises qu'on dit dans ce micro.
Oh.
Allô?
Oui.
Bonjour, monsieur l'abbé.
Bonsoir, monsieur Beketch. Bonsoir à vos invités.
Il faut quand même que je vous dise qu'il y a une personne qui a quitté le studio.
Bon, c'est rassurant. J'espère qu'il n'y a pas trop d'auditeurs qui ont quitté l'écoute.
Bah non, ceux-là, ils sont déjà partis depuis longtemps.
Voilà. De quel abbé s'agit-il sans un...
L'abbé Cellier.
Ah,
vous n'avez pas reconnu sa voix de bronze?
Je me fais l'expression des auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur.
Alors, monsieur l'abbé Cellier, vous êtes venu déjà la semaine dernière. Je rassure nos auditeurs, vous n'êtes pas abonné à la semaine.
Hein. Non. C'est parce qu'il y a un événement particulier.
Alors,
qui m'amène.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de nouveau?
Voilà, alors donc, un certain nombre le savent sans doute déjà, mais en tout cas pour ceux qui n'auraient pas l'internet, je le dis. Donc, les 40 membres du chapitre de la Fraternité Saint-Pédis ont élu hier Mgr Felet comme supérieur général, l'abbé Pfluger comme premier assistant et l'abbé Nelly comme deuxième assistant. Alors, concernant le supérieur général, évidemment, Mgr Felet, il s'agit d'une réélection, la première réélection de l'histoire de notre fraternité, et les électeurs, par ce vote, je pense, ont d'abord voulu approuver le gouvernement de Mgr Felet. Et ils ont confirmé la ligne suivie, et notamment ce qui concerne, bien sûr, la prudente ouverture dans les relations avec Rome. Et ils ont estimé que dans les circonstances actuelles, qui ne sont pas toujours faciles, Mgr Felet était l'homme de la situation pour continuer à conduire la Fraternité Saint-Pédis pour les 12 années qui s'ouvrent. En revanche, en ce qui concerne les assistants, les électeurs du chapitre général ont souhaité un net renouvellement, puisque les deux assistants sont nouveaux. Les anciens, donc, sont rentrés dans le rang, si je puis dire. Et les électeurs ont voulu confier cette charge à des hommes de terrain, riches d'expérience pastorale, puisque les deux assistants ont chacun plus de 20 ans derrière eux, comme vicaire, puis enseignant, puis prieur, puis supérieur de district.
Ça, c'est plutôt bien.
C'est vraiment
l'expérience du terrain.
Un enracinement sur le terrain, et je crois que c'est un signe qu'a voulu donner le chapitre pour dire nous voulons des hommes de terrain qui soient à la tête.
Hein. Ce sont des Français, des Allemands.
Alors, je vais les décrire tous les deux. Donc le premier assistant, l'abbé Niklaus Pfluger, est un Suisse allemand de 48 ans, parfaitement francophone. Il a fait ses études à Icon en bonne partie. C'est un homme très jovial, très entreprenant, et je note. Je le connais pas très très bien, mais je note qu'il est très attentif à la question des vocations, qui est une question qui a été beaucoup agitée ces deux dernières années, puisqu'il a été pendant 7 ans supérieur du séminaire d'Allemagne. Quant au deuxième assistant, l'abbé Alain Marc Nelly, c'est un Français de 56 ans, et si vous voulez bien, je vais m'attarder quelques instants sur lui, tout simplement parce que je le connais très bien, nous sommes très proches. Hein. Et tout d'abord, je crois que l'abbé Nelly va représenter au sein de la direction de la fraternité, du gouvernement de la fraternité, il va représenter l'esprit français, la sensibilité française, et je crois que c'est quelque chose d'important pour nous tous, c'est évident, d'autant que nous savons que les Français, la France représente un tiers de la fraternité, il est important que l'esprit français soit représenté dans la direction de la fraternité. La Benelli est un prêtre qui a un excellent contact avec les prêtres, avec les fidèles et avec les jeunes, puisque pendant 10 ans, il a été enseignant à l'école Saint-Joseph des Carmes, près de Carcassonne. L'abbé Nelly est un homme très ouvert aux problèmes contemporains, il y a beaucoup réfléchi, et personnellement, je le connaissant bien, je suis sûr qu'il cherchera des solutions à son poste, hein, à sa place, il n'est pas le chef, pour permettre des avancées dans tous les problèmes qui nous préoccupent tous, tout en étant bien sûr, évidemment, très fidèle à l'esprit de la fraternité. Et je note qu'en particulier, comme supérieur d'Italie, ce qu'il est actuellement, il a accompagné Mgr Felet à Castelgandolfo lors de la rencontre avec Benoît XVI. Et personnellement, de ces choix du chapitre, je me réjouis, parce qu'ils allient, me semble-t-il, continuité, renouvellement des personnes et ouverture. Il n'y a pas dans ces choix de concession à un durcissement ou à un enfermement de la fraternité dans une tour d'ivoire. Il n'y a pas non plus de concession à un aventurisme et un abandon du combat de la foi. Je vois au contraire dans cette élection la continuité de l'esprit de Mgr Lefebvre, esprit de fidélité à la foi, bien sûr, nous le savons, esprit romain aussi, je crois que les trois, le supérieur général et ses assistants sont très romains, bref, ce que j'appellerais un esprit totalement catholique.
Est-ce que vous pensez, monsieur l'abbé, que avec cette nouvelle équipe dirigeante, on pourrait trouver une solution d'apaisement dans le règlement de certains conflits qui ont secoué la fraternité au cours des années précédentes?
Personnellement, je le souhaiterais, évidemment. Les prêtres dont vous parlez, notamment les prêtres de Bordeaux, monsieur l'abbé de Tannoirne, je ne me le cache pas, ce sont des gens que je connais et que j'estime, donc je le souhaiterais. En même temps, ce sont des questions difficiles, il y a eu des cassures, il y a eu des ruptures, je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes aient forcément envie de revenir dans la fraternité, ils ont aussi pris des options, ils sont en train de construire une nouvelle œuvre. Bon, je ne sais pas, certainement le renouvellement, la présence de gens nouveaux qui n'ont pas été impliqués dans le conflit, car c'est aussi important au point de vue humain, vous savez, peut certainement contribuer à l'apaisement. Cet apaisement se fera-t-il par un retour ou bien éventuellement par, je dirais, on renoue autour des valeurs de la tradition en disant, ben voilà, vous avez quitté la fraternité, mais vous êtes fidèles au même combat et donc nous collaborons, vous voyez ce que je veux dire, dans quelques temps. Je ne le sais pas, je le souhaite, mais je ne peux pas le dire. Mais certainement, le fait de ces hommes nouveaux qui n'ont pas été impliqués peut permettre en tout cas d'améliorer les relations, je pense.
Très bien. Alors, bon, on va voir ce que l'avenir nous réservera. Et avec le secours du Saint-Esprit, ça devrait pas trop mal se passer quand même, j'espère.
Oui, je pense vraiment. Je vous dis, ces hommes que je connais. Bon, je connais Mgr Follet depuis le séminaire. L'abbé Pfluger, je le connais moins, mais je l'ai rencontré un petit peu. Mais je connais l'abbé Nelly. Ce sont des hommes, je dis, prudents, sages, qui vont vouloir essayer de faire avancer les choses sans, encore une fois, il n'y a eu aucune concession dans ces votes à une espèce de repliement qui était un petit peu qui aurait été dangereux, ni non plus d'ouverture à tout va en disant les gars tout va très bien, lâchons tout. Non, je crois qu'il y a une ligne, encore une fois, de fidélité à toutes les valeurs fondamentales que représente la fraternité, tout en étant attentif à ce qui se passe jour après jour dans l'Église. Je crois que ça c'est important, d'être attentif à ce qui se passe et à ne pas se dire, voilà, nous sommes aujourd'hui comme dans les années 70 ou comme dans les années 80. Il y a eu un certain nombre de choses, des choses bonnes, des choses mauvaises, il faut y être attentif et je crois qu'ils vont s'y atteler très 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 sérieusement. Et en même temps, bon, le fait que le chapitre soit passé, que Mgr Follet soit confirmé, lui permet effectivement, vis-à-vis notamment de Rome, qui est quand même un des sujets qui nous intéresse, de se poser comme un interlocuteur valable, confirmé par ses pairs, confirmé par sa congrégation, pour bien faire avancer les dossiers.
Alors justement, puisque vous parlez de Rome, est-ce que vous avez l'impression que la nouvelle équipe dirigeante aura une ligne plus favorable à la, bon, disons la réconciliation, pour simplifier, avec Rome? Est-ce que vous croyez que la succession, le fait que le pape, que Mgr Ratzinger ait succédé au pape Wojtyla, est de nature à rendre les relations plus faciles avec une société comme la fraternité qui est quand même assez dominée par l'esprit germanique?
Voilà. Alors, je dirais, effectivement, le changement d'homme est important. Changement d'homme est important parce que, d'abord, le Benoît XVI est un homme qui nous connaît bien. Ça, c'est très important. Il nous suit depuis longtemps, donc il sait qui nous sommes. Il évalue la fraternité de façon plus approfondie que son prédécesseur qui s'y intéressait pas énormément, si vous voulez. Et puis, deuxièmement, c'est un homme qui est sensible à certaines de nos objections, notamment sur la liturgie et aussi sur quelques problèmes théologiques. Donc, certainement, ça favorisera. Et puis, le fait est que il y a une part de la fraternité, que ça soit l'un des anciens, assistants, l'abbé Schmidberger, qui connaît qui a connu l'abbé Ratzinger, puis Mgr Ratzinger, puis le pape Benoît XVI, à travers l'Allemagne, si vous voulez, mais également l'abbé Pfluger, qui est un Suisse allemand, qui est actuellement supérieur du district d'Allemagne, donc bien au fait de tout le côté germanique. Certainement, ça favorise ces relations. En même temps, Monsieur l'abbé Nelly vient de passer 2 ans à Rome. Il a noué des relations dans les congrégations, dans le, je dirais, la curie, et cela sera tout à fait utile et favorable. Il parle bien l'italien, il vient de passer 2 ans en Italie, donc tout ça, je pense, permettra de nouer. Mais ne nous faisons pas non plus d'illusions, je dirais, le dossier est difficile, le dossier est profond, les divergences ne sont pas nulles, donc ne nous disons pas que dans 3 mois, c'est réglé et plié, quoi.
Sans se faire d'illusions, monsieur l'abbé, je voudrais rappeler aux auditeurs qui ne sont pas spécialistes que Benoît XVI a très rapidement reçu monseigneur Felet après son élection à lui à la papauté, voilà. Alors qu'il n'y avait plus de contact depuis, je crois, 10 ans.
Disons qu'il y avait eu un contact très bref avec Jean-Paul II à la fin de l'année 2000, mais un contact, je dirais, très informel. Il s'était rencontré, monseigneur Felet et Jean-Paul II, mais très informel, alors que là, il y a eu un contact beaucoup plus officiel et sérieux, et qui était précédé d'une note de travail par la fraternité, donc, si vous voulez, vraiment d'une mise en place, d'une orientation de travail, de confrontation, d'approfondissement. Moi, personnellement, si je puis demander mon avis, bien entendu, c'est au supérieur, je suis pour un travail théologique, vraiment une confrontation théologique. Je crois que, de part et d'autre, on va pouvoir y arriver, et là, on va creuser les questions pour dégager les divergences et en même temps essayer de les réduire autant que possible, si vous voulez, de part et d'autre, je pense, parce que, bon, il y a des évolutions qui se font, pas toutes dans le bon sens, mais certaines dans le bon sens, en particulier au niveau de la liturgie, où le nouveau secrétaire de la congrégation des rites, qui est un Sri Lankais, qui est favorable, c'est clair, à la messe traditionnelle et qui vient de faire des déclarations au Figaro, à la Croix et un peu partout, qui sont très positives.
En tout cas, le dernier numéro de Renaissance catholique consacre sa une à l'épiscopat français. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on ne peut pas dire que ça soit dans le sens d'un rapprochement avec cet épiscopat qui est quand même pris à la gorge par l'auteur d'un livre, je crois que c'est Fontaine qui a écrit.
Fontaine, oui, c'est Livre ça. Noir des évêques de France.
Livre noir des évêques de France, dont le titre se suffit à lui-même, voilà. Encore que voilà. Le contenu mérite d'être lu.
Voilà.
Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, alors là, c'est une question un peu précoce peut-être, mais vous n'avez pas l'impression que cette prise, ce renforcement ou cet accroissement de la distance entre la fraternité et l'épiscopat français est une espèce de jeu stratégique vis-à-vis de Rome?
Bien, si vous voulez, c'est clair que l'épiscopat français est au cœur de la question de la fraternité, parce que la fraternité est très bien implantée en France et qu'effectivement ils pèsent de tout leur poids pour faire obstacle à certains égards. Mais attention, si vous savez ce que c'est quand dans une négociation politique, dans les derniers moments, tout le monde, je dirais, monte sur ses ergots et essaye de faire peur à l'autre, même si, dans son fort intérieur, il est prêt à faire des concessions, mais pour avoir le maximum, si vous voulez, dans son camp. Donc je crois que l'épiscopat français, notamment dans ses dirigeants, et le cardinal Ricard en particulier, sont des gens qui prennent plus en compte la dimension de la fraternité, sa présence. Ils sont maintenant persuadés, ce qu'ils n'étaient pas persuadés il y a 10 ans, que la fraternité va rester dans le paysage français, oui. Qu'ils doivent faire avec, et que maintenant il faut qu'ils essayent de trouver des solutions, parce que, vous voyez, dans Le Pèlerin, c'est une revue qui n'est pas favorable à la fraternité,
c'est moi qui dis, on peut dire ça,
Le Pèlerin, le Pèlerin de la semaine dernière, je crois, eh bien, le père Delorme, le curé des Minguettes, la marche des beurs 83, vous voyez, c'est pas n'importe qui.
Oui.
Le père Delorme vient de faire un article pour répondre à des fidèles qui s'adressent à lui en disant « Notre fils s'est marié avec une jeune fille traditionnaliste intégriste ». Donc ça remonte jusqu'à eux, ils peuvent plus ne pas en parler. Maintenant, oui. La fraternité est quelque chose, comme on dirait aujourd'hui, d'incontournable dans leur vie, dans leur diocèse. On représente, il y a maintenant à peu près 140 prêtres, de la fraternité en France. Je parle même pas des prêtres amis, les capucins, les bénédictins. Je parle simplement des prêtres de la fraternité. Près de 140 prêtres en France. C'est-à-dire que nous représentons maintenant un diocèse moyen.
Oui.
Donc c'est important. Prêtres jeunes, dynamiques, qui parcourent la France. Il y a à peu près 200 chapelles sur tout le territoire français qui sont desservies. Donc nous représentons quelque chose. Et maintenant, le noyau dirigeant de l'épiscopat français le sait, puisqu'ils ont, à leur dernière assemblée de Lourdes, ils ont créé une commission pour s'occuper de nous.
On vous voit, monsieur l'abbé, je tiens à vous le dire, on croise des soutanes régulièrement où qu'on se trouve en France, et permettez-moi d'ajouter en ma qualité de mécréant que ça fait du bien, que ça fait ressentir avec joie qu'une certaine France est encore vivante, et c'est grâce à vous.
Ouais.
Et avec Georges Brassens, un autre mécréant, je vous en remercie, vous vous souvenez de cette chanson de Georges Brassens?
Je suis un grand admirateur de Georges Brassens.
Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, voilà. Tous ces sacrés calotins, sans le latin, sans le latin.
Voilà, etc., etc. Non, c'est chanson qui est restée dans l'histoire. Puisqu'elle parle de Monseigneur Lefebvre.
Hein. Vous parliez de l'abbé Delan, on pourrait parler aussi de l'abbé Gilbert.
J'ai du respect pour l'abbé Gilbert.
Mais absolument, et ce que je voulais dire justement, c'est ça, c'est que on a l'impression que le fossé qui existait entre l'église conciliaire et l'église traditionnaliste est en train de se déplacer, et maintenant il est beaucoup plus clair, il passe entre les fonctionnaires d'église qui croient pas en Dieu et les curés qui y croient.
Voilà, je crois qu'il y a maintenant une rupture entre la vieille garde, arc-boutée sur son concile et sur son progressisme, et un jeune clergé identitaire, il faut le dire, ils ont du mot, qui est rejoint par, je dirais, les prêtres plus anciens qui ont gardé la foi. C'est le cas de Guy Gilbert. Je ne partage pas ses options.
Non, mais c'est pas le problème.
C'est clair. Oui. Hein. Et je voyais une photo de Guy Gilbert il y a quelques jours, agenouillé, recevant la bénédiction d'un jeune prêtre, et on sentait que vraiment il avait cette dévotion pour le sacerdoce. Et de ce côté-là, il se distingue d'un vieux clergé, d'un clergé des années 60, qui a été ravagé par la crise, hein, et qui, lui, ne croit plus, à certains égards, ne croit plus à Dieu ni à diable, et qui est lui. Nous, dans notre publication qui s'appelle « La lettre à nos frères prêtres », eh bien, les réponses que nous avons, nos confrères l'abbé de la Roque, donc quatre fois par an, nous envoyons à tous les prêtres de France une lettre d'explication, de polémique, de discussion, de présentation, eh bien, c'est très clair que la strate des âges est déterminante.
Oui, bien sûr.
Les prêtres des années 60 est contre nous à fond. Oui. La strate des jeunes prêtres est beaucoup plus attentif à ce que nous faisons.
Il la retourne.
Alors, on va complètement changer de sujet. Encore que peut-être que vous allez, les noms que vous allez nous citer contiennent les prochains dirigeants de la fraternité ou les prochains évêques français, voire le prochain pape, parce que vous nous avez annoncé que vous alliez donner les résultats du bac dans les écoles dirigées par les prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Vous avez présenté...
Il faudrait mieux que ce soit supérieur à 82%, monsieur l'abbé.
Voilà, alors, je vous donne les résultats. Effectivement, résultat du bac 2006, 76 candidats présentés, 75 lauréats, soit 98,6% de réussite.
Hein? Vous nous donnez le nom de celui qui a raté, parce qu'il mérite quand même une bonne fessée.
Mais sachant que 82%, c'est le taux national.
Sous silence malheureux. Surtout que c'est dans mon ancienne école, l'école Saint-Michel. Alors c'est
bravo, félicitations.
Alors, il y a 5 mentions très bien, on peut donner leur nom parce que je crois qu'ils le méritent. 5 mentions très bien. Gauthier Lenoache à l'école Saint-Joseph des Carmes de Carcassonne, d'où provient l'abbé Nelly, mais il y a 10 ans. Hein. Et M. Abbé de Cacret, supérieur de district. Donc, Ludovic Marignol, également l'école Saint-Joseph des Carmes à Carcassonne. Édouard Martin, qui est de l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Arras, pas très loin de Riomont. Jean Pugat, qui est de l'école Saint-Bernard de Courbevoie. Et Harold Thureau, le fils de Maître Thureau, qui est de l'école Saint-Bernard à Courbevoie. Et donc, il y a 16 mentions bien et 26 mentions assez bien et un certain nombre de misérables qui n'ont même pas de mention.
Oui, ça, moi, je vous le dis, je trouve ça, moi qui n'ai même pas le bac, je trouve ça absolument scandaleux.
Ouais, ils ont été renvoyés. Depuis qu'ils ont eu le bac, ils ont été renvoyés de nos écoles.
La mention, c'est indispensable quand le taux de réussite national est 80%, 82%, comme on l'a annoncé ce matin, et qu'on sait qu'il y a 40% d'illettrés en sixième.
Oui, non, je crois qu'effectivement, la mention est à moins de valeur qu'elle n'avait autrefois.
Non, mention très bien, ça, encore.
Reste encore quand même, je crois, un signe d'un très bon travail et d'un très bon niveau. Et je crois que ce sont des gens qui méritent d'être honorés, quoi.
Eh bien, écoutez, on leur adresse toutes nos félicitations. Et puis, on espère que l'année prochaine, vous ferez un sans faute absolu.
Ma foi,
il faut
toujours se méfier, parce que si les gars se disent, dans les écoles de la fraternité, on est sûr d'avoir le bac, il faut une très légère angoisse. Pour rester dans le travail.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que les écoles de la fraternité sélectionnent un petit peu à l'entrée.
C'est un petit peu vrai, mais pas entièrement.
Moi, quand j'ai voulu me présenter en sixième, il y a une dizaine d'années, j'ai été refusé.
Voilà.
Donc,
c'est vrai, mais c'est pas...
À Saint-Michel, d'ailleurs, je vous le signale.
C'est parce que vous aviez mal... Il fallait présenter CE1. C'était ça, le problème.
C'est ça. Merci, monsieur Labbé, à bientôt.
Bonne soirée, à bientôt.
Voilà. Bon, ben, on est comme d'habitude à la tête, en tête de l'information. C'est nous qu'on a donné les noms. Alors, vous savez qu'on a dit que, pour revenir à notre camarade Zinedine Zidane, on a dit qu'il avait défendu la mémoire, enfin pas la mémoire, mais l'honneur de sa mère. Parce que
Materazzi,
il aurait dit des choses sur ma mère.
Mais voilà. Ça sort.
Il a traité ma mère.
Il a dit.
Alors, le quotidien anglais The Daily Mirror a interrogé Madame Zidane Malika, la mère du nouveau retraité, qui a dit qu'elle était très remontée après avoir eu écho des insultes du défenseur de l'Inter. Je ne sais pas qu'on a pu lui raconter, mais elle a dit « Je suis dégoûtée par tout ce que j'ai entendu, mais fière de l'attitude de mon fils qui a fait honneur à la famille. »
Et à la France.
Attendez, c'est pas fini. Si les insultes qu'il a faites s'avèrent vraies, on dit pas s'avèrent vraies, madame. S'avèrent vraies. Je voulais, mais c'est, s'avèrent même, on dit pas s'avèrent
vraies. Ça, c'est le dialecte de Tizi aujourd'hui.
S'avèrent fausses non plus. Si les insultes qu'il a faites s'avèrent vraies, écoutez bien la suite, vous allez voir que, comment on dit, la caque, toujours sans le hareng. Disait ma mère. C'est ma mère qui disait ça. La caque, toujours sans le hareng. Si les insultes qu'il a faites s'avèrent vraies, j'ai vu qu'on m'apporte ses couilles sur un plat.
C'est très élégant, hein.
Alors le journaliste du Daily Mirror dit testicles. Il dit pas le mot que j'ai
dit. Ah, c'est.
Je sais, voilà, mine. Voilà, bah c'est bien tout ça, on nage dans le...
Voilà, et quand Le Pen élève la voix devant Madame Pulvas-Berjal, c'est le dernier des derniers.
Le sport républicain est parti, quoi. Non,
et il est inéligible pour 2 ans.
Imaginez une chose, c'est qu'il y a un dingo islamo-progressiste qui, en Italie, va voir Monsieur Materazzi, lui dit, la mère Zidane, il a dit, eh ben, on va le couper et on va lui emporter sur un plateau. Je crois que c'est une affaire dont on n'a pas fini d'entendre parler.
Possible. Non, non. Et on saura dans quel état il était.
Alors, une autre information, j'ai appris que s'il y avait une justice, vous seriez encore en taule, mon cher Jean, mon cher, je dis Jean-Pax parce que je le vois arriver. Entre Jean-Pax, viens t'asseoir. Entre, c'était, non,
entre ici, entre dans ce moulin, Jean-Pax.
Donc je disais, vous seriez encore en prison, vous n'auriez pas été libéré alors, parce que il paraît que les batteurs d'épouses, enfin de femmes en général, n'auront pas droit à l'amnistie présidentielle.
Du 14 juillet, je trouve.
Alors, on est amnistié, sauf si on a dit, sauf si on est révisionniste, sauf si on est raciste, sauf si on est batafam. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À part les députés voleurs, je vois pas ce qui peut être amnistié maintenant.
Alors, c'est une annonce que Monsieur Jacques Chirac a voulu faire dès aujourd'hui, sans attendre le 14 juillet, puisqu'il s'agit d'amnistie du 14 juillet. Alors, je vous demande 30 secondes, Serge, pour faire une petite nomenclature des déclarations de M. Chirac depuis 15 jours. Je crois qu'il retombe, sinon en enfance, du moins en adolescence, puisqu'on dit souvent qu'il était, qu'il vendait l'humanité à la criée, puisque depuis 15 jours, il a l'air de se donner à cœur de terminer son mandat en faisant exclusivement de la propagande de gauche et d'extrême gauche. Donc, 15 jours, les 15 derniers jours simplement, inauguration du musée des arts premiers. Très bien, bravo, le marquis nous a dit que c'était un bel endroit. Mais enfin, Monsieur Chirac s'est borné à nous expliquer que la cabane bambou et les huttes en paillotte, ça valait bien la cathédrale de Reims ou de Chartres.
Ah, la cabane bambou.
90e bambou. Anniversaire de Verdun. Monsieur Chirac se rend sur place, mais il a rien d'autre à en dire que de saluer la mémoire des soldats musulmans. Pourquoi pas hindouistes ou bouddhistes, je ne sais pas. Lundi dernier, Il reçoit Zinedine Zidane pour lui faire part de l'admiration de la nation tout entière, dont d'après les sondages, il n'a peut-être pas vraiment titre à exprimer les sentiments. Admiration à tous égards, donc y compris pour le coup de boule. Aujourd'hui même, et là Serge, je crois que vous y avez été particulièrement sensible, c'est l'anniversaire de Dreyfus qu'on nous resserre dans un plat toujours plus grand et toujours plus haut. Et donc le 14 juillet, c'est l'amnistie pour tout le monde, pour les coups de boule, pour les crimes de sang, les violeurs de petites filles, pour tout le monde, sauf pour les auteurs de violences conjugales. Et donc aujourd'hui, sur ma radio, on m'a fait la leçon et on a beaucoup parlé des hommes violents. Alors moi, je voudrais, et je crois que je n'aurais pas d'autre tribune pour le dire en dehors de ce studio et du Libre Journal, je voudrais qu'on me parle une fois, une seule des femmes violentes. Parce que je vais pas discuter, je vais pas faire un discours, je vais simplement citer un chiffre qu'on ne cite jamais. Il y a des morts tous les ans de violences conjugales, mais 2 sur 10 sont des hommes. Alors quand est-ce qu'on va citer? Je demande qu'on le fasse une fois, une seule des femmes.
8 à 10.
Alors en dehors, j'ai exagéré, en dehors du studio de Radio Courtoisie du Libre Journal, j'ai une tribune pour parler de ces vérités-là. Et c'est mon petit pamphlet. Qu'est-ce que je dis, mon petit pamphlet? Petit par les
magnifique
dimensions.
Magnifique pamphlet. Je me suis fait enguirlander par ma petite femme parce que je l'ai lu.
Et dédicacé.
Préfacé.
Et préfacé, je radote. Donc, Batafemme tous les jours.
Battue, hein.
Un tas de vérités qu'on ne pourra lire nulle part ailleurs. C'est la deuxième édition, augmentée et corrigée, c'est 10 euros seulement, à l'ordre de Patrick Goffman, chez SDB, 4 places France Liste, 75-010, Paris.
Il faut le lire même si vous n'avez jamais battu une femme, fût-ce avec une fleur, même si vous n'avez été jamais battu par aucun homme, madame, parce que en plus c'est drôle et bien écrit. Parce que bon, le côté militant, c'est plutôt rigolo si on prend avec un grain de sel, mais c'est bien écrit et ça fait plaisir de lire des choses bien écrites. Merci mon cher Patrick de nous avoir...
Je ne revendique plus d'ici 7h30 où Bernard Anthony nous succédera que 2 minutes pour vendre le Libre Journal.
Voilà. Et puis nous recevons maintenant Jean Pax Meffray pour un disque qui est un événement. Quand je dis un événement, c'est pas du tout une façon de parler. C'est d'abord un événement parce que ça fait combien de temps maintenant Jean Pax que on n'a pas eu de disque de Jean Pax Meffray inédit. Je ne parle pas de réédition.
Il y en a eu un sur les Harkis.
Oui, il y a quoi, 2 ans, 2-3 ans?
4 ans, ouais.
4 ans, voilà.
Mais une chanson.
Ouais. Une chanson. Tandis que là, c'est un véritable album. Un événement parce que c'est pour une fois quelque chose qui n'est pas directement lié à ce qui est toute ta vie, enfin, ce qui est une grande partie de ta vie, c'est l'histoire de l'Algérie, le drame algérien, le drame du dépatriement, etc. Et puis, c'est un événement parce que c'est un vrai album qui est superbe. C'est un événement parce qu'une photo que vous ne verrez jamais ailleurs, qui est magnifique, rien que pour ça, il faut acheter l'album. C'est une photo de communion solennelle de Jean Pax Marie Ange Meffray en l'église Saint-Bonaventure d'Alger. Et je comprends pourquoi ses parents l'avaient appelé Marie-Ange.
Hein? Il est joli. Hein?
Comment on aurait pu penser que ce garçon finirait en prison? Hein? Ah, vous voulez voir, Victoria? Regardez, vous auriez bien aimé avoir un élève comme ça.
Hein? Qu'il est mignon. Le bon Dieu sans confession.
Premier communion, je le dis pour les auditeurs qui n'auraient pas la radio en noir et blanc.
Alors, avec l'arrêt sur le côté, ses petites mains jointes et tout, alors son regard qui est directement branché sur le Saint-Esprit, c'est une jolie photo. Hein?
Oui, c'est une très belle photo.
Ah, c'est une belle photo. Et alors, je termine ma présentation par une brève lecture. Parce qu'on pourrait croire que, fort de la description qu'on va faire de la photo, Jean Pax est un garçon bien élevé, sage, qui n'élève pas la voix.
Je suis.
Oui, bien sûr, il est tout ça, c'est sûr. Mais qui est, je dirais, socialement, politiquement, humainement correct. Alors voilà les textes qu'il a choisis pour ouvrir son album. Ça s'appelle « Le Populicide de la Vendée ». Il entre dans mes projets, et ce sont les ordres de la Convention nationale, d'enlever toutes les subsistances de ce maudit pays, de livrer aux flammes tous les bâtiments et d'en exterminer tous les habitants, Jean-Baptiste Carrier. Citoyens républicains, il n'y a plus de Vendée, elle est morte sous notre sabre libre. Avec ses femmes et ses enfants, je viens d'en l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. Suivant les ordres que vous m'avez donnés, j'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfonceront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. Les routes sont semées de cadavres. On fusille sans cesse à Savenay, car à chaque instant, il arrive des brigands qui prétendent se rendre prisonniers. Nous ne faisons pas de prisonniers. Il faudrait leur donner le pain de la liberté. Et la pitié n'est pas révolutionnaire. C'est signé François-Joseph Westermann. Et détruisez la Vendée. La Vendée et encore la Vendée, voilà le chancre qui dévore la République. C'est là qu'il faut frapper. C'est dans les plaies gangréneuses que la médecine porte le fer et le feu. C'est à Mortagne, à Cholet, à Chemillé que la médecine politique doit employer les mêmes moyens et les mêmes remèdes. L'humanité ne se plaint pas. C'est faire un bien que d'extirper le mal. C'est signé Bertrand Barenne de Vieuxac. Et ce sont des choses que aucun officier SS n'aurait osé écrire.
Par contre, il y a des proclamations bolcheviques qui rendent voilà. Le même son exactement.
Alors, parce que maintenant, avec l'espèce de perspective historique, ça c'était il y a 200 ans. Mmh. Hein. La Shoah c'était il y a 60 ans. Donc l'espace se rétrécit entre les deux événements. Et ils prennent une coloration, si on y ajoute les massacres staliniens, tout ça prend une coloration extraordinairement commune. On voit bien que ça, c'est la même bête qui parle. Et on pourrait croire donc que de faire un disque aujourd'hui, en 2006, sur des événements qui datent de 1793, c'est totalement désuet. Mais en réalité, c'est de l'actualité pleine et entière. Quand on voit ce qui s'est passé hier à Bombay, par exemple, ce qui se passe au Darfour, ce qui se passe partout dans le monde.
Vous avez vu les grandes affiches de Marianne, ils n'ont pas
Palestine.
De chance. Ils ont mis la photo énorme d'un méchant hindouiste le jour même des massacres islamistes à Bombay.
Ça arrive à tous les gens
bien. En plus, ce disque...
C'est
nécessaire parce que c'est pas enseigné en classe. Hein, les guerres de Vendée, on n'en parle pas. Ou alors, il y a quelques lignes en expliquant que ce sont des guerres de religion. On ne parle pas des massacres de population, surtout.
Ce que tu dis, là, c'est très important parce que nous, quand on fait nos articles dans le Libre Journal, quand on parle, même à la radio... On est quand même un peu, si les auditeurs veulent bien me pardonner l'expression, tout petit peu des vieux cons pour les jeunes auditeurs, pour les jeunes lecteurs. Et ils disent, ça y est, ils viennent encore nous pomper l'air avec leurs vieilles histoires de vieux bons hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent nous enquiquiner et tout. Et Jean-Pac, lui, il met de la musique là-dessus, il met du rythme, et naturellement, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et les gosses, alors, est-ce que, les jeunes gens. Filles, est-ce que tu as des échos déjà de réactions? Est-ce que ça les...
Non, pour les autres chansons, oui.
Ouais. Mais pour ça...
Sur l'Algérie, il y en a beaucoup encore, qui m'ont... J'ai reçu beaucoup de messages à propos de l'Algérie, où on me disait... Des jeunes gens et moins jeunes même qui me disaient en écoutant vos chansons j'ai regretté de pas avoir prêté plus d'attention aux propos de mon père quand il me parlait de sa guerre et la même chose pour Diem Bien Phu. Si tu veux, avec ces chansons, ce que j'essaie c'est de resituer un peu les événements et d'apprendre cette histoire qui figure pas dans les pages de l'histoire officielle.
Et c'est d'autant plus utile et indispensable. Oui, je rassure l'auditeur, nous allons passer un ou deux airs de Jean-Pac, une ou deux chansons de Jean-Pac, vous allez les entendre bien sûr, c'est quand même l'essentiel, c'est d'entendre. Mais je voulais dire, c'est d'autant plus nécessaire de faire ce genre de disque, ce genre de texte que... Les pouvoirs menteurs usent et abusent de l'ignorance des gens. On en a eu la preuve, pas plus tard que la semaine dernière, avec ce qui s'est passé, l'invraisemblable scandale qui s'est déroulé à l'Arc de Triomphe, où notre ami Jean-Pierre Rondeau avait organisé un dépôt de gerbes par les anciens élèves de du lycée La Mauricière avec l'autorisation des autorités, et où, à la suite d'un chantage dégueulasse et d'une provocation répugnante de communistes, c'est vraiment incroyable, Mekachera a baissé sa culotte, Sarkozy a baissé sa culotte, Chirac a baissé sa culotte, et au dernier moment, ils ont interdit le dépôt d'une gerbe à Jean-Pierre Rondeau et à ses amis de l'association des anciens élèves de l'Institut Mauricière. Et ils ont envoyé les CRS et les gardes mobiles et tout ça pour interdire l'accès.
Rappelez-vous, Serge, c'était le soir de France-Portugal. Ouais. Ils ont également interdit l'émeute raciale, les émeutes qui ont fait 7 morts ce soir-là, mais elles ont eu lieu quand même.
Voilà. Alors, si les gens avaient su, si les gens savaient la vérité sur l'Algérie, ça serait impossible de faire ça, d'interdire un dépôt de gerbes. Mais comme personne, comme on a les télévisions, les radios, le cinéma passent leur temps à dire, les pieds noirs sont arrivés dans un pays qui était pacifique et richissime, ils ont tout volé, ils ont tué tout le monde et ils ont foutu le camp, la paille au cul, en emportant les trésors admirables de la culture islamo-maghrébine, eh bien, le brave con de Franchouillard, il dit c'est bien fait, alors allons, en plus ils ont déposé une gerbe, voilà. Donc au moins, si on peut leur dire la vérité là-dessus, et leur dire dans un langage qu'ils comprennent, c'est une réussite, et ce sera probablement, je souhaite que ce disque soit une véritable réussite, et en tout cas dès demain il sera une réussite, parce que il est tu vas aller le signer chez...
Oui, alors je dédicace demain à France Livre, rue du
Petit
6, rue du Petit Pont, à partir de 15h.
RER Saint-Michel, sortie Notre-Dame.
Bravo.
On ira te soutenir.
Merci.
Moralement. On va écouter
Guerre de Vendée.
Guerre de Vendée, et puis ensuite on reviendra, parce que je voudrais te poser une ou deux questions.
Ils ont tué notre abbé. Les soldats de Robespierre font la chasse aux réfractaires. Ils ont la mort au poignet. Déjà dans tout le bocage, les gens quittent leur village pour lever la grande armée. Les paysans en sabots, les aristos en jabot, des milliers de gars sont prêts. Ce n'est pas joli la guerre, mais il faut parfois la faire lorsque l'on est agressé. C'est pourquoi Dieu nous soutienne, notre premier requiem est pour les morts de Vendée. Nous portons sur nos poitrines la foi de notre origine, le cœur sacré de Jésus. Toutes les valeurs chrétiennes coulent toujours dans nos veines, notre Seigneur l'a voulu. Nous ne souhaitions pas la guerre, simplement faire nos prières, sans avoir à nous cacher. C'est pourquoi Dieu en témoigne, nous luttions contre la montagne pendant les guerres de Vendée. Ils ont massacré nos frères, ils ont effondré nos mères, ils ont brûlé nos enfants. Ils rêvaient de nous détruire, ils ont failli réussir, et personne ne s'en repent. méride. L'auteur du populicide n'a pas payé pour ce sang. C'est pourquoi Dieu nous pardonne si nous condamnons cet homme devant le grand monument. Parfois, lors d'une nuit forte, des ombres frappent à notre porte. Elles ont les noms des héros. C'est pourquoi Dieu nous comprenne. Il arrive que notre cœur saigne au souvenir de Catelino. Jacques Catelino, Antoine de la Trémoigne, Henri de la Roche-Jacquelin, Maurice Delvey, Louis de Lescure, Charles Artus de Bonchamp, Jean Chouan, Georges Cadoudal, Jean-Nicolas Stoffler, François Charette de la Contrie. Nous ne souhaitions pas la guerre, simplement faire nos prières, sans avoir à nous cacher.
Chanter, nous nous chantons, parce que ça fait 5 minutes 5. Nous écoutions donc de Jean Pax Mayfray, Guerre de Vendée. Et alors je demande aux auditeurs de ne pas assaillir nos deux téléphonistes bénévoles s'ils veulent à tout prix ce disque. Ils s'adressent aux éditions Clovis. Je vais donner une adresse et un numéro de téléphone. Édition Clovis, BP 88 91 152 Étampes, CEDEX. Et le téléphone, c'est 01 69 78 30, 23. Je répète rapidement. Ça y est, vous avez un papier, un crayon. Édition Clovis, BP 88, 91, 152, Étampes, CEDEX. Téléphone 01, 69, 78, 30, 23.
Ou sinon, demain, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont.
Paris, 5e, mais RER Saint-Michel, sortie Notre-Dame.
Bah, c'est sympa. Jean-Pierre, est-ce que tu fais un lien entre le sort de la Vendée et le sort de l'Algérie française?
La répression, oui.
Ouais. Ouais, et la non-repentance, parce que
et la non-repentance.
Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai, on passe son temps à se repentir sur tous les crimes, tu le dis dans la chanson, ouais, d'ailleurs, ouais. Personne ne se repent. Les gens passent leur temps à se repentir sur tous les crimes dans lesquels on n'a absolument aucune responsabilité. Mais les crimes de la République, à cela... Il n'y a jamais de repentance. Jamais, jamais, jamais. C'est quand même extraordinaire de penser que moins de 200 ans après cette tuerie volontaire, on l'a parfaitement calculée, parfaitement voulu déterminer ce massacre, personne ne dit, il faut quand même, même pas les curés d'ailleurs, même pas les évêques qui sont tout le temps en train de battre leur coupe sur la poitrine des autres, ils battent même pas leur coupe sur la poitrine des terroristes de 93.
Oui, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ces deux chansons sur les guerres de Vendée. Parce que le lien, c'est vraiment la répression et puis l'oubli, quoi, jeté dans un trou, et c'est vraiment les pages oubliées de l'histoire, les massacres de Vendée, bon, qui ont été beaucoup plus importants que ceux d'Algérie, mais je pense à la fusillade du 26 mars 62 à Alger, on ne parle pas, il y a eu 80 morts quand même, et plus de 200 blessés, c'est l'armée française qui a tiré sur la foule, au fusil mitrailleur. Ça fait pas partie du programme.
Les unités de l'armée française.
Une exception PPDA. C'est pas la première fois qu'il montre beaucoup de courage. À propos des Serbes, il avait montré la vérité en Serbie, il avait montré du courage. Et donc le 4 juillet, il a dit quelques mots au sujet des massacres d'Oran et dans sa position.
Oui, Oran.
C'est vraiment héroïque.
Oui, mais les massacres d'Oran qui ont eu lieu le 5 juillet. C'est malheureusement les victimes sont les mêmes, sont les pieds noirs. Les massacres d'Oran ont été commis par des gens du FLN, oui. l'armée algérienne qui avait pris le pouvoir. Il y a eu des enlèvements, des atrocités dans la zone qu'on appelle le petit lac à Oran. En revanche, la fusillade du 26 mars, c'est un régiment français. C'est un régiment français qui bloquait des artères d'Alger. Il y avait la population d'Alger s'était rassemblée pour aller apporter son soutien à un autre quartier d'Alger qui était encerclé par la gendarmerie mobile qui s'appelle Bab El Oued.
Et là, l'armée a interdit le passage des manifestants qui chantaient la Marseillaise, qui agitaient des drapeaux tricolores, et ils ont ouvert le feu. Ils ont ouvert le feu et ça a duré une dizaine de minutes en tirant au fusil mitrailleur et ça a fait des dégâts considérables. Les gens ont porté dans tous les coins et
François, je crois que votre sœur a été blessée ce jour.
Moi j'étais blessé là.
C'est vous qui avez été blessé
l'année d'avant dans le cadre, mais j'étais à peu près à 80 mètres de là où il y avait les tirailleurs. Là. Quand ça commence à tirer, c'était déjà à 52, c'est un bruit qu'on reconnaît quand on a l'habitude. C'était absolument terrifiant. Puis j'étais avec un camarade, on était à l'époque en médecine, il me dit, il y a des gens par terre, ils ont dû s'abriter, les gens par terre. Quand je suis arrivé à l'hôpital de Mustapha, il y avait des têtes arrachées. Ouais. Parce que l'impact de ces balles, c'est terrifiant, quoi. C'était un truc, je me demande comment on s'en est sorti, parce que ça porte loin, ces trucs-là. Hein. On était à la hauteur d'Air France, là, c'est à peut-être 150 mètres du truc, quoi. Mais après, j'ai réussi à sortir par une ambulance des pompiers pour pouvoir rejoindre le service où je faisais déjà fonction d'interne. Il y avait le professeur Guanard qui est mort maintenant. Il a fait rentrer à couper dans le cul des journalistes allemands et français. Il leur a dit, vous ne pourrez plus jamais nous parler de vos histoires d'Allemands, quoi. Hein. Vous savez, ce truc-là, c'est comme la Vendée, c'est de la magie noire, quoi. Ce qui s'est passé en Algérie, vous savez que j'ai un peu quelques capacités un peu mystérieuses. C'était moi, je l'ai ressenti jusqu'à la fin comme quelque chose de terrifiant, quoi, hein, qui ne m'a jamais quitté. Hein, que ça soit les patrouilles de gendarmerie dans la rue. Il y a aussi, on oublie aussi que les CRS, ils bloquaient un quartier, ils venaient, ils fouillaient tout dans les armoires. Là, le moindre arabe qui se ramasse une baffe dans les bas-fonds, on en fait des chansons, des trucs. Chez nous, moi, j'ai réussi à me tailler toujours. Hein. Je sentais quand ils venaient, ils m'ont jamais pris. Hein. Mais j'ai des camarades qui ont passé 15 jours à Béni-Messous, dans des camps militaires. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils diraient, tous ces ivrognes ici, s'ils voyaient arriver 20 escadrons gendarmes mobiles qui bloquent Auteuil et qui vont tout chercher, y compris les slips de la petite, les tampons périodiques et les machins.
Ouais,
c'est terrifiant,
mais
ce
c'est vrai qu'il y a une dimension complètement démoniaque.
Ah non, mais c'est démoniaque. Et je pense à cette ordure de Chirac.
Comme en Vendée, hein, c'est un sacrifice humain.
Qui profitait de la haute société d'Alger. Il était toujours fourré au Club des Pins. Hein, il mettait son gros cul là-bas, il profitait de tous les gens. C'est vraiment l'immondice par excellence. Tout. C'était les têtes de Frangaoui, quoi. Hein. Cette espèce de racaille. Il faut bien dire que chez nous, il y a des gens qui ont quand même, justement, dans ceux qui étaient un peu, qui avaient un peu du fric, qui se sont impliqués là-dedans, hein, parce que finalement, faut bien dire, on s'est pas beaucoup défendu, hein. On s'est laissé avoir sans avoir fait grand chose. Hein,
en tout cas, ce qui est certain, c'est que parmi les relations, enfin les rapports qu'il y a entre l'affaire de Vendée et le drame algérien, entre le drame de la Vendée et le drame algérien, il y a ce que tu disais, Jean-Paul, c'est-à-dire une répression d'une férocité inouïe, une absence de
repentir. Une guerre franco-française.
Une guerre franco-française, une absence de repentir total de la part des assassins. Et puis cette dimension démoniaque que soulevait François Plantet. Mmh. Voilà, demain, rue du Petit Pont, à la librairie...
15h.
France Livre,
c'est... Non, je ne peux pas arriver. Moi, pour moi, c'est la librairie Saint-Nicolas jusqu'à la fin de mes jours. C'est fini. À mon âge...
C'est un nom nié, hein, vous êtes d'accord.
C'est une niaiserie totale.
Hein. On dirait que c'est une zone industrielle du côté de Goussainville.
Non, voilà. C'est 6 rue du Petit Pont.
Heureusement, les patrons Jacques Lot et Mancheron sont des gens adorables.
Ah oui.
Enfin, les gens qui s'occupent de... Je dis les patrons, je ne sais pas si c'est les patrons. Ceux qui sont à la tête de cette librairie, ils sont des gens merveilleux, extrêmement gentils.
Le Libre Journal est sur la caisse, alors on ne va pas en dire du mal.
En plus, oui, c'est vrai.
Ils en vendent plus de 100, c'est un secret commercial que je balance.
Monsieur Fournier, vous représentez le
Séché.
À chaque fois, je reçois quelqu'un du Séché, je dis le CEP, Là, c'est le Séché, on est d'accord. Le Séché, c'est le
cercle d'études scientifiques et historiques fondé en 1971. Donc nous fêtons nos 35 ans pour développer l'œuvre d'un Français décédé en 70.
Catholique français.
Catholique, qui signait un catholique français, Fernand Combette, hein, auteur d'une œuvre.
Un pur génie.
Je crois, un génie, oui. Comme on n'en fait pas avec un esprit universel et une œuvre de portée universelle.
Ouais.
Donc nous fêtons nos 35 ans, mais en même temps les 20 ans de notre revue qui s'appelle Science et Voix, que vos auditeurs connaissent bien, parce qu'ils participent à nos colloques, etc. Alors, en général, nous faisions ça à Paris, mais les locaux n'étant pas libres cette année-ci, et vu les circonstances, les anniversaires, puisqu'il y en, y en a deux, ça se passera à Gap, au sanctuaire Notre-Dame du Lot.
À Gap?
À Gap, oui.
Vous organisez quoi, un pont aérien
Alors, pour ceux qui le désirent, oui, effectivement, il y a un autocar qui a été affrété, qui part de Lille, tourne Lille, s'arrête à Paris, s'arrête à Dijon, s'arrête à Lyon.
Voilà. Et à Gap.
Et à Gap, bien entendu, c'est oui, tout près.
Bon, sanctuaire. Vous n'espérez quand même pas qu'ils vont faire Lyon-Gap à pied.
Et au retour, ils s'arrêtent quelques heures à la Salette.
Ah bien.
Voilà. Alors, les dates, c'est du 15 au 17 septembre. Donc ça commence le vendredi soir parce qu'en fait, puisque étant donné les anniversaires, on a mis les petits plats dans les grands. Donc il y a une petite exposition qui retrace tout l'historique du séché et de la vie de Fernand Crombette. Le samedi soir, il y a une pièce de théâtre, Ponce Pilate, le pouvoir et la vérité, d'Alain Didier, que vous connaissez peut-être, hein, avec le concours sans doute de Roland de France. Alors le programme habituel, hein, puisque on est dans c'est un lieu merveilleux, le Lot. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, c'est propice à toutes sortes de choses. Donc, les conférences. Nous aurons cette année-ci, en dehors des conférenciers type séché sur l'œuvre de Fernand Crombette, parce qu'on a à peu près terminé des travaux très importants, donc on va en faire part. Il y aura aussi Madame Danielle Masson, ouais, sur l'école ingouvernable. Le père Édouard-Marie Gallet sur la véritable origine de l'islam. Bon, sa thèse est sortie en livre, vous la connaissez, je suppose,
c'est
également.
C'est chaud bouillant.
Oui. Il y aura un agrégé de philosophie qui vient d'obtenir sa retraite, Bernard Duquesne de Lille, qui nous parle de la Trinité, mystère de Dieu, mais avec une approche philosophique. Et les autres conférences, Christian Jordan parlera des chronologies, puisque maintenant nous avons terminé la mise en tableau chronologique de toute la chronologie établie par Fernand Crombette, tant sur le plan égyptologique que biblique, et que touchant les autres civilisations du monde méditerranéen. Je ferai une conférence, la conférence d'entrée, pour expliquer où nous en sommes, et surtout le résultat que nous obtenons en ayant repris la méthode de Fernand Crombette, l'utilisation des racines coptes pour la traduction des langues anciennes. Et enfin, une conférence sur l'égyptologie que Jean-Charles Crémieux fera avec mon concours également. Voilà, alors je peux donner l'adresse.
Je voudrais dire qu'il faut, si vous avez la possibilité d'aller assister à ce colloque, je m'adresse aux auditeurs, faites-le parce que c'est vraiment passionnant. Les travaux de Crombette, c'est quelque chose de prodigieusement intéressant. C'est quand même dans le droit fil de toute une voie de recherche sur le langage, sur l'étymologie. Et c'est une clé essentielle pour la compréhension de notre monde. Et vous ne faites pas de conférence, François, cette fois-ci?
Pas cette fois-ci.
Non, mais j'ai pas envie de parler, j'ai plus rien à dire ou trop, j'en sais rien. Mais par contre, c'est évidemment là que se trouve la vérité.
Vous savez, c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer ses gueules.
Exactement. Hein. Mais moi, je pense que
il y a eu des conférences mémorables de François. Ouais.
C'est trop bon. Ouais. Mais c'est là qu'on trouve chez nous, si vous voulez, la tradition de la loi Torah chez BLP, la loi orale, qui est la vérité de tout, qui est dans la Kabbale. C'est clair, quoi. Et si c'est pas intéressant, c'est absolument central dans la connaissance du plan de Dieu sur le cosmos, quoi.
Alors, pour ceux qui
sont bouleversant.
Ah, c'est bouleversant.
Très souvent bouleversant quand on écoute certaines conférences. Je me souviens d'une conférence sur l'écriture chinoise, qui paraissait quand même assez austère au début.
Mais après, on s'élève, hein. La Trinité dans la quadrature des signes chinois.
C'est incroyable.
Non, c'est fabuleux.
Alors, pour ceux qui sont intéressés, je donne les coordonnées. Donc, c'est du 15 au 17 septembre. On y va par tous les moyens qu'on veut. Évidemment, il y a le car, mais les places sont limitées dans le car. Il faut se dépêcher pour réserver. Il faut donc écrire au Séché France, CESHE France, BP 1055, donc 1055, hein, 59011, Lille CEDEX. Téléphone le 06 15 87 72 01 et le courriel Séché ADM, comme administration, donc CESHEADM@wanadoo.fr. Voilà, je crois.
Merci.
Alors, nous aurons une autre activité, j'en profite, en fin de cette année, à Lille. On fait des journées également, où là, nous recevrons vraisemblablement M. Pierre Perrier.
Voilà. Et puis dites à Dominique Tasso que, si vous le voyez, je sais que vous vous rencontrez
en tant qu'ancien président, il est invité.
Et qu'on souhaite un prompt rétablissement parce qu'il a été victime d'un accident assez grave. Oui.
Ah bon?
On a eu craint qu'il ne perde son bras à la suite d'un accident de machine agricole.
Ouh là 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 là.
Il veut faire comme notre ami Michel Delière. Donc voilà, ça se paye. Le président Le Pen, ça c'est la petite crotte habituelle en période préélectorale. Le président Le Pen est renvoyé en correctionnel pour ses propos tenus d'Henri Warhol sur l'occupation allemande qu'il a jugé pas particulièrement inhumaine. Voilà. Donc il faut bien savoir que l'occupation allemande est particulièrement humaine, ce qu'on ne peut pas dire naturellement de l'occupation israélienne. Par exemple, je dis ça au hasard, mais
l'occupation vendée, non faut.
Ou l'occupation
qui était très humaine,
qui elle est une grande humanité puisqu'elle est républicaine. Un dernier mot, mon cher Patrick, vous avez 30 secondes.
J'ai 30 secondes. Eh bien, nos auditeurs se souviennent certainement d'Alexandre Barbera Ivanov, le peintre qu'on a reçu la dernière fois. On lui donne 2 pages en couleur. Donc, c'est Noël en juillet, puisque d'habitude, le Libre Journal, notre couleur, que pour Noël. C'est le numéro 383 dont je parle. Il est sorti des presses aujourd'hui. On y apprend que la génération marine veut la peau des blaireaux, que Serge de Beketch s'étonne qu'un garde frontière de l'armée israélienne se charge de garder les frontières françaises grâce à M. Sarkozy. On dit la vérité sur ces indigènes là qui auraient libéré la France. Et voilà, j'ai plus de temps que pour dire commandez ce numéro 383 pour 5€ ou un carnet de timbre ou abonnez-vous un an pour 110€ à SDB 4 Place France List 75010 Paris.
Merci, bonne semaine, que Dieu nous garde.
De passer la soirée avec nous. Tout à l'heure à 21h, les soirées musicales avec la discothèque pour connaisseurs et amateurs de Claudio. À 22h, les musiques de films. Et à 23h, dans la série Les Grands Pianistes, Claudio Haro joue Schumann. Tout de suite, voici la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beketch. Très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Qui traquait votre fils en blanc.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 12 juillet 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
C'est pour la Sainte Russie. Vieille tradition, pour la gloire et la patrie, que luttaient ces batailles. Pour la gloire et la patrie, que luttaient ces batailles.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, Bernard Anthony au micro. Je prends le relais de Serge de Bekech, que je retrouverai tout à l'heure, pour faire le point sur l'actualité. Mais en attendant, je suis heureux ce soir pour l'émission de La Réplique d'accueillir Cécile Montmirail. Tu vas bien, Cécile?
Hein? Je vais très bien, Bernard.
Ah, eh ben voilà une bonne nouvelle.
Bonsoir.
Jeanne Smith.
Bonsoir Bernard.
Jeanne Smith, directrice de présence. Ça va à présent, Jeanne?
Ça va toujours un peu moyennement, mais on essaie de tenir la tête hors de l'eau.
Ben, je vois que le camarade Sanders, lui, a la tête hors de l'eau. Ça va à présent, Alain Sanders?
Oui, jamais d'eau sans perno, donc ça va.
Jamais d'eau sans perno, je peux en témoigner, parce qu'avant d'arriver ici, il a quand même bu une petite tomate, puis un petit perroquet. Il avait soif, Alain, ce soir. Chers amis, pour cette émission de La Réplique, tout d'abord, si vous le permettez, une réplique personnelle, puisque, une fois de plus, M. Forcari, dans le journal Libération, vient de déposer sa petite crotte, pour reprendre l'expression d'Yves Daoudal dans Reconquête, traitant de la manière tout à fait inepte dont M. Forcari a traité de mon livre « Devoir de réponse », dans lequel Yves Daoudal note la grande courtoisie de mes propos à l'égard de Marine Le Pen, ma volonté de débat. M. Forcari a vu le contraire. Lorsque je dis que je débat à une certaine hauteur, c'est bien évidemment, avec Marine Le Pen notamment, que je suis prêt au débat sur des questions graves à une hauteur à laquelle je suis persuadé qu'elle peut être. Donc, M. Forcari avait dit le contraire. Mais aujourd'hui, il déforme complètement.
Oui, Bernard, comme j'ai lu Libération aujourd'hui, je crois que M. Forcari a évoqué votre communiqué qui concernait l'affaire Zidane. Alors, est-ce qu'une fois de plus, il a travesti vos propos?
Totalement, parce que, qu'est-ce que j'avais dit dans mon communiqué? J'avais dit dans mon communiqué que je prenais avec, tout de même, je n'étais pas consterné de cette défaite française, parce que c'est le dite française, c'est la défaite des Bleus, c'est du football, c'est du ballon, c'est tout de même pas Waterloo, c'est tout de même pas un grand effondrement national, il faut quand même un peu de recul. Et puis, avec ironie, j'ai traité, au fond, de cette victoire italienne.
italienne au Cirque Maxime. Alors quand on tournait Rome, ça évoque beaucoup de choses, c'est l'antiquité. Et j'ai dit, mais au train où ils vont, les Italiens, ils vont peut-être vouloir demander Zidane enchaîné, comme jadis Vercingétorix le fut. On voit bien là qu'il s'agit d'ironie. Alors monsieur, alors, oui.
Comment Forcari a traité cette information?
Eh ben voilà, l'information dans Libération, c'est que je me réjouis de la défaite de la France dans le et que j'y vois le triomphe d'une certaine forme de romanité grandiose. Alors bien entendu, j'ai traité de cela avec ironie parce que enfin dans cette affaire du mondial, dans cette affaire de Zidane, il faudrait remettre les choses à leur place. Elles sont intéressantes. Je vais probablement en traiter dans Reconquête parce que on voit là se manifester un ersatz de patriotisme. D'ailleurs, ça montre bien qu'il sommeille au fond des peuples une volonté de se retrouver autour de leur drapeau, je ne le nie pas. Mais enfin, il faudrait quand même ramener les choses à leur juste proportion. Alors, on voit dans ces affaires de compétition sportive ce que Charles Maurras y voyait déjà dans son reportage magnifique qui s'appelle, dont il a fait un livre, Antinéa, sur les premiers Jeux Olympiques des temps modernes. Maurras disait, on exalte la grande fraternité du sport, tout ça doit réconcilier tout le monde. Mais il disait prophétiquement, vous allez voir que la politique va se glisser là-dessous, que les appétits nationaux vont se glisser là-dessous. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit l'idéologie se glisser partout. Donc le football devient aujourd'hui matière à discours idéologique, donc il suffit d'entendre Jacques Chirac pour cela. Alors, moi j'ai voulu ramener les choses. C'est bien qu'il y ait comme ça, que les peuples se retrouvent autour de leur drapeau, mais quand même, c'est de l'ersatz de patriotisme. Et je crois qu'il y a quelque chose d'un peu malsain aussi dans ces affirmations un tout petit peu grandiloquentes sur quelque chose qui doit être ramené à sa juste proportion. C'est un peu comme dans l'affaire donc qui me concernait avec Marine. Donc là, Monsieur Forcari invente de toutes pièces, et je ne suis pas de ceux qui attristent non plus la chute de Libération, que même l'argent des Rothschild ne suffit pas à maintenir à flot.
Alors, il y a une autre actualité aujourd'hui, pas dans Libération, mais dans Le Monde qui nous concerne. Donc, je lis, Bernard, Monsieur de Villiers ne récolte pas les fruits de sa radicalisation. Donc, l'article est signé de Christiane Chombeau, qui a donc en charge les questions d'extrême droite, je crois, dans le journal. Alors, je crois que vous avez lu l'article, Bernard?
Oui, bien sûr.
Alors, je crois que M. Pelletier, qui est le bras droit de M. de Villiers, a décidé de changer de cap. Est-ce que vous pouvez commenter cette actualité?
Oui, bien, c'est lié à ce que j'écris dans Reconquête aussi. Et je fais appel ici au soutien à la revue Reconquête, parce que je crois que nous exprimons des positions à la fois vraies et non conformistes. Et mon dernier éditorial dans Reconquête s'intitule « Politique, la perversion du marketing ». Parce que je crois que c'est cela qui est très grave aujourd'hui. Nous avons de moins en moins des hommes politiques fidèles à leurs convictions, fidèles au sentiment qu'ils ont du bien commun, mais qui ne cessent d'analyser avec les sondages le positionnement qu'ils doivent avoir. C'est donc ramener la politique à l'activité marchande. Je ne suis pas contre l'activité marchande. Il est bon que l'on sache quelle sorte de pommes veulent manger les conservateurs. Il est bon les consommateurs, pardon. Il est bon de savoir quel avion veulent le prendre les touristes. Le marketing a sa légitimité dans son domaine. Mais en politique, est-ce que l'on réfléchit bien? Quelle position je vais prendre? Alors on voit ainsi, Monsieur Sarkozy, de temps à autre, aller sur les terres du Front National, et puis hop, il se repositionne un peu à gauche pour essayer de contourner Ségolène Royal. Ségolène arrive ensuite et elle tente donc de déborder Sarkozy sur sa droite. Cela est particulièrement affligeant. Et je crains que cela ne gagne toute la classe politique, tout l'échiquier politique. Alors je suis quand même consterné de voir ainsi Monsieur, comment s'appelle-t-il,
Pelletier.
Pelletier.
manier la langue de bois politicienne. Il est vrai que son anagramme, c'est reptile. Et donc, il annonce qu'il va en terminer avec le positionnement anti-islamique, dont il faut, là, qu'il se positionne différemment. Alors, je ne vais pas lire cet article du Monde, mais je pense que là, puisqu'on met entre guillemets, on ne déforme pas ses propos comme on le fait des miens dans Libération. On peut tronquer, bien sûr, on peut cisailler, mais enfin, ce qu'on publie de lui, ce sont de véritables déclarations assez longues, dans lesquelles il n'y a pas des coups de ciseaux. Alors, il faut maintenant revenir sur l'électorat traditionnel, sur les ruraux, sur les chasseurs. Je crois que tout cela est un peu dérisoire. Hein. Je crois que ça n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Hein. Voilà donc Monsieur Pelletier vouloir faire de la volte-face. Déjà, il avait été très à gauche. Il exprimait dans le Nouvel Observateur, et son député Patrick Bouy l'a redit à Nice dernièrement, on ne veut pas des catholiques traditionnalistes, mais je dois dire, moi je ne suis pas un catholique traditionnaliste, j'aime pas ces adverbes, ces adjectifs, je suis un catholique tout court. Mais c'est effectivement nous qui ne voulons pas de cette politique-là. J'espère bien qu'un jour, nous aurons une classe politique avec des hommes propres qui ne se positionneront pas par rapport à leurs intérêts électoraux. Pour ce qui est de moi, je ne sais pas si je referai de la politique électorale, ça n'est pas impossible, mais en tout cas, je préférerais être battu sur mes idées qu'élu sur les idées de mes adversaires.
Vous avez commencé, Bernard, ce propos en disant qu'il n'y avait aucun homme politique aujourd'hui qui se tenait sur sa ligne politique. Alors, il y a eu, je crois même à cette radio, une interview assez longue du président du Front National, et notamment sur l'IVG. Est-ce que vous faisiez allusion à cela ?
Non, je n'ai pas fait allusion spécialement à cela, puisque je n'ai pas entendu, je suis provincial et je voyage, je n'ai pas entendu cet entretien sur Radio Courtoisie avec Jean-Marie Le Pen, je ne peux donc pas le commenter. J'espère que Jean-Marie Le Pen va se tenir aux lignes de ses idées fondamentales. Je l'espère, mais je ne peux pas, je n'ai pas entendu, mais effectivement, il y a certaines évolutions qui m'inquiètent un peu, et je dois dire que moi j'ai le souvenir d'un Jean-Marie Le Pen qui lançait sa campagne en 88 à Vannes avec le son des Bignoux qui jouait la marche de Cadoudal. On me dit que maintenant le lancement ça sera à Valmy, et on sait ce que fut la réalité de Valmy, mais si vous avez d'autres éléments,
peut-être Jeanne Smith, vous avez voulu la dépêche de la AFP de ce matin ?
Oui, il y a eu en fait plusieurs déclarations de Jean-Marie Le Pen sur l'avortement dernièrement, où on pense que en gros il s'aligne sur la position de Marine Le Pen, qui est de dire combattons l'avortement en faisant une politique favorable à la vie, mais sans repénaliser l'avortement, ça n'est pas possible dans la situation, dans la société telle qu'elle est, et on lit en filigrane un petit peu ce que l'on devine aussi chez Pelletier, ça nous perdra des voix. Pelletier a la naïveté, je crois, de s'exprimer publiquement en disant voilà, on va essayer de grappiller des voix ici plutôt que là, parce que du côté du FN ça ne marche pas, mais ailleurs ça marche.
C'est presque incroyable d'ailleurs.
C'est presque incroyable d'oser le dire. C'est très étonnant. Chez Marine Le Pen, nous avons donc ce choix qui, je pense, est son choix fondamental. Et bon, elle l'exprime. Heureusement qu'elle l'exprime honnêtement, je dirais. Jean-Marie Le Pen, je pense que c'est un peu différent, parce qu'il a quand même mené un parti, un mouvement plus exactement, dont le programme affirmait « il faut abroger la loi Veil ». Et qu'est-ce qu'il a dit l'autre soir sur Radio Courtoisie, donc à cette antenne? Il a dit que la remise en cause éventuelle des lois sur l'avortement, et là je le cite, « n'était pas un des thèmes du combat politique d'aujourd'hui ». Et ainsi, on raconte qu'il prend ses distances avec une revendication clé de la composante catholique conservatrice de son parti. Mais je crois qu'il n'y a pas seulement les catholiques qui soient horrifiés par les 200 000 morts de l'avortement tous les ans. Alors, Le Pen continue. Nous avons le souci de défendre la vie dans toutes ses formes. Et il ajoute, le gravissime problème familial et démographique doit être résolu par des mesures incitatives aidant les gens qui souhaitent avoir des enfants à en avoir, plutôt que de compter sur la répression pénale pour essayer de maintenir des gens dans le droit chemin moral. Le devoir d'État, ajoute M. Le Pen, le devoir d'État des hommes politiques, c'est de gérer la cité. Nous n'avons pas un devoir de réforme morale ou éthique. Cela appartient aux forces religieuses ou à chaque citoyen qui considère que c'est une donnée fondamentale. Autrement dit, il évacue la question de l'avortement légalisé, remboursé par l'État, pour la renvoyer dans les filets des évêques, si on veut, ou des catholiques, en disant « ça n'est pas mon affaire, moi je dois me débrouiller pour que les Français puissent avoir des enfants dans des conditions correctes et que la tentation de l'avortement n'existe plus. » Seulement, je pense qu'il là, il y a un revirement de position qui est quand même assez spectaculaire, parce que légaliser l'avortement, c'est un problème essentiellement politique. Et j'ajouterais que c'est même un des problèmes fondamentaux aujourd'hui, où l'on souffre d'un suicide démographique évident, avec son corollaire l'immigration massive. Je crois que tout cela est profondément lié. Et je crois aussi que Le Pen, comme d'ailleurs Christine Boutin, comme sa fille Marine, comme d'autres mouvements qui défendent la vie sans vouloir remettre en cause la légalité de l'avortement, passent à côté de quelque chose d'important. C'est-à-dire que la loi, contrairement à ce que l'on croit, la loi ne suit pas le fait, c'est le fait qui suit la loi. Et la loi donne au peuple l'indication de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et en disant que l'avortement peut être légal et qu'on va lutter contre cet avortement en favorisant la vie, ce qui est très bien, on n'est pas contre ça, eh bien je crois qu'on passe à côté de quelque chose de fondamental. Et je voudrais faire un parallèle. Imaginez que demain il y ait beaucoup de petits vieux, ça on y va, on le sait bien avec l'hiver démographique qui s'annonce, et qu'il y ait de moins en moins de jeunes et qu'il soit de plus en plus difficile de conserver en vie matériellement, financièrement, ces personnes âgées qui coûtent cher en raison de leur maladie et autres. Imaginez qu'une vague d'euthanasie volontaire se mette en place. Est-ce que l'on va dire qu'on va se contenter d'aider les familles à garder leurs vieux en vie, ou est-ce qu'on va dire tuer un vieillard est un mal ?
C'est justement ce que l'on peut lire dans ces déclarations, c'est qu'en fait il n'est dit nulle part que l'avortement est un crime.
Non, la grande crainte, c'est de dire si l'on repénalise l'avortement, c'est-à-dire si on redit que c'est un délit, eh bien les gens se retourneront contre nous parce que ils sont trop habitués à avoir ce droit.
Bon, moi, à ce niveau-là, je voudrais dire ceci, c'est que je reste tout à fait fidèle à la ligne qui fut celle du Front National, qui est, à ma connaissance, toujours celle du programme du Front National, qui n'a pas été abrégé.
Le programme est toujours le même.
Nous avons voulu, Georges-Paul Wellner et moi, et vous, Jeanne, et d'autres encore, apporter une pierre à ce débat en publiant au Centre Charlier une loi pour la vie. Cette loi n'est pas l'abrogation de la loi Veil. Elle est le remplacement de la loi Veil. Il y a une nuance très importante. Comprendre tout à fait une part des propos de Jean-Marie Le Pen. En effet, on ne saurait passer sous silence la responsabilité écrasante des forces morales, et effectivement, je crois qu'il y a une culture de vie qui doit être enseignée. Mais cette culture de vie, qu'elle soit enseignée, ça dépend de l'État, justement. Et c'est que là, je ne suis plus d'accord avec Jean-Marie Le Pen sur une question grave. Parce que quand il dit ça n'est pas le fait des politiques, mais oui, parce que l'éducation, l'instruction civique, l'instruction morale, le respect de la personne humaine, tout cela, enfin, c'est évidemment du rôle de l'État, c'est du rôle de l'éducation nationale, puisque ça appartient en grande partie aujourd'hui, d'ailleurs à 90% au moins à l'État. Alors, ce que je crois, c'est que on ne peut effectivement pas condamner les personnes qui se laissent aller à cet acte désastreux. Mais comme le dit, le rappelle certes Benoît XVI, mais des autorités qui n'ont rien à voir avec le catholicisme. Ça n'est pas d'ailleurs un problème de religion. La question de l'avortement, c'est un problème de loi naturelle. Le professeur Corraz à Toulouse, qui est parfaitement agnostique, défend la vie avec la même vigueur que moi. De même que il y avait dans le sillage d'Alexis Carrel, donc beaucoup de médecins, beaucoup de savants qui savent aujourd'hui que la vie, ce qu'est la vie, on le sait mieux avec la science moderne aujourd'hui. Ils ne sont pas des catholiques, ils ne sont pas des chrétiens, mais ils savent que l'avortement est un acte de mort. Et ça, donc, qu'ensuite on puisse ne pas jeter la pierre et condamner les personnes qui ont été avortées, c'est une chose.
Vous parlez des femmes, Bernard.
Mais je parle des femmes. Oui. Mais nous sommes, nous, pour pour donc une abrogation de la loi Veil par une condamnation, que ce soit très clair, de l'avortement, qui est un acte de mort. Et en cela, encore une fois, ce n'est pas une question d'opposer des cathos et des non-cathos.
Oui, je voudrais signaler à cet égard que la Fondation Jérôme Lejeune vient de publier un petit manuel bioéthique des jeunes qui est extrêmement bien fait, qui répond à toutes les questions que l'on peut se poser sur les questions de bioéthique, de fécondation in vitro, d'avortement et le reste. Et alors là, ils ont tout à fait le langage qu'il faut, en disant par exemple, l'avortement, peut-on parler de choix ? Oui, lorsqu'on légalise l'avortement, on a l'impression qu'il y a un choix. Et voilà ce que répond ce petit manuel. En avortant mon enfant, je choisis pour lui la mort, comme si j'avais le choix, en tant qu'humain, de tuer l'un de mes semblables. La loi qui me donne ce droit semble rendre ce choix possible. Et pourtant, je commets un acte de mort. Si la justice française ne me le reproche plus depuis 1975, ma conscience me rappelle à l'ordre. L'injustice de la loi, c'est de donner libre cours à un acte de mort, comme si on avait le choix. Ce qui est légal n'est pas forcément moral. Alors ça, c'est ce que dit cet excellent petit fascicule de la Fondation Lejeune. On peut l'obtenir en allant sur leur site. Je crois que c'est un fascicule qui est distribué gratuitement. Jean-Marie Le Pen dit c'est une affaire morale. Eh bien oui, effectivement, c'est une affaire morale. Mais ça ne l'est pas seulement. Je veux dire par là que lorsque l'État s'abstient de réprimer les actes de haine comme il devrait le faire. Enfin, aujourd'hui, avec l'antiracisme, ce sont des sentiments qui sont réprimés. Là, effectivement, l'État va trop loin, parce qu'il va dans la conscience personnelle et dans les actes personnels. Mais l'avortement n'est pas un acte personnel, c'est un acte qui vise une personne qui est autre que celle de la mère qui avorte, c'est-à-dire le tout jeune enfant, et c'est un acte qui vise la société parce qu'il tue un membre de cette société humaine.
Merci Jeanne. Nous avons beaucoup de questions ce soir, Bernard. Alors d'abord, quelqu'un qui vous félicite. Bravo à Bernard Anthony sur ses prises de position et pour ses sites internet très clairs. Vous avez donc des sites internet, Bernard ?
Mais oui, il suffit d'aller sur La Griffe ou sur Chrétienté Solidarité. Et ces sites, je pense, reçoivent ce qu'on appelle de plus en plus de visites.
Oui, alors je donne l'adresse pour La Griffe, www.agriffe.fr. FR, effectivement Bernard, puisque je crois que La Griffe cet hiver a relooké le site pour permettre
pas trop de friendly, Clarisse. pas trop.
Alors, autre question, est-ce que Zidane est effectivement fils de Harki ? Est-ce vrai ou est-ce faux ?
Alain Sander, je connais ces choses-là.
Oui, Zidane, je l'aime bien, je l'aime beaucoup et étant un peu sanguin, moi aussi, c'est pas un coup de boule qui me choque. C'est ce qu'on a fait autour de lui. On en a essayé d'en faire une icône. Alors, Zidane est le fils d'un Kabyle, donc pas un Algérien façon Bouteflika, déjà, qui est venu en France en 54 à l'âge de 17 ans. Donc il n'est pas fils de Harki proprement dit, il est fils d'un Kabyle qui a choisi de venir vivre en métropole, c'est-à-dire en France française, par rapport à l'Algérie française, mais c'est-à-dire un homme qui a choisi de venir vivre et de faire sa vie chez nous, qui a merveilleusement élevé tous ses enfants, qui a été aidé par une femme admirable. Et je rappellerai que Zidane, lui-même interrogé sur ces problèmes-là, a dit il y a quelque temps « j'ai le cœur Harki ». Et qu'il a donné à ses enfants des prénoms chrétiens. Voilà, alors c'est ce côté-là de Zidane que j'aime, plus que tout le cirque que certains ont voulu faire autour de lui et qui l'ont dépassé et qui, j'en suis sûr, lui déplaisent très certainement.
Merci Alain.
Autre question sur l'équipe de France. Alors un de nos auditeurs nous dit que l'équipe de France, on ne s'y reconnaît pas dedans. C'est une équipe majoritairement musulmane. Et en plus, ils ne chantent pas la Marseillaise. Une réaction, Bernard ?
Non, c'est pas une équipe majoritairement musulmane. Le problème n'est pas là. Moi, ça me gêne pas du tout que des Guyanais, que des Réunionnais, que des Martiniquais, que...
Qui font d'ailleurs le signe de croix avant.
Qui
avant.
Généralement sont plutôt plus chrétiens qu'un Barthez, qui lui effectivement ne chante pas et manifestement en serrant ses lèvres qu'il a déjà minces et méchantes la Marseillaise, ça ne me gêne pas. C'est qu'on nous fait tout un cinéma en nous disant au cinéma, c'est le cas de le dire, ou à la télévision, ou dans les partis politiques, il n'y a pas assez de minorités visibles. Là, ces minorités au foot sont plus que visibles. Si
si effectivement on nous prouve que ces 11-là ou ces 22-là sont les meilleurs et qu'il n'y avait pas d'autre choix possible, mais je serais un petit peu intéressé que l'on demande à des joueurs, le Coderme, on dit, de Nantes, de Bordeaux, de Reims, de Sedan, de Lyon, si ils ne sont pas aussi bons que les uns et les autres. Mais cela dit, je préfère effectivement un Makelele qui, lui, chante à pleine voix et avec une bonne gueule la Marseillaise qu'un type comme Barthès, tout le codermique qui soit.
Merci Alain.
Alors, dernière question avant de reprendre. Est-ce bien le moment de tirer sur Jean-Marie Le Pen alors qu'il monte dans les sondages ? Attendez que Jean-Marie Le Pen arrive au pouvoir pour le juger, nous dit cet auditeur. Bernard.
Bon, écoutez, cet auditeur, je crois que je salue, ne comprend pas bien. Il serait encore, ce qui serait ignoble, ça serait de lui tirer dessus alors qu'il baisse dans les sondages. Bon, non, le problème n'est pas là, nous ne lui tirons pas dessus, mais c'est maintenant qu'il faut que les débats aient lieu. C'est maintenant, et puis comprenons-nous, il y a des questions très importantes qui sont celles du débat des idées, qui sont celles du débat sur les mesures que devrait prendre un gouvernement de salut national. Alors, je crois que nous avons non seulement une liberté de commentaire politique, mais nous avons même un devoir. Qu'est-ce que l'on penserait de nous si nous n'avions pas, comment dirais-je, la cohérence avec tout ce pourquoi nous avons toujours combattu. Là, nous sommes en droit et en devoir de dire tout le bien que nous pensons de Jean-Marie Le Pen sur bien des sujets, mais sur d'autres, de dire quelquefois nous n'aimons pas certaines dérives ou nous sommes inquiets. Alain, vous dire
un mot. Oui, c'est pour reprendre un peu la citation que Jeanne faisait tout à l'heure, c'est aussi une affaire de confiance. Il y a des choses sur lesquelles on peut glisser, on peut être d'accord sur ou pas d'accord sur telle analyse de politique étrangère, sur tel contact, sur tel point politique ailleurs, mais là c'est une affaire de conscience. Ne pas dire ce que l'on pense sur ce sujet-là pour la seule idée que ça gênerait une progression qui se fait quand même, d'ailleurs, nous dit le type, ça serait paradoxal.
Oui, et puis alors là, cet auditeur nous dit, attendez que Jean-Marie Le Pen arrive au pouvoir pour le juger. Alors ça, écoutez, cher ami de Radio Courtoisie qui nous dit cela, à ce moment-là, on peut dire cela pour Philippe de Villiers, pour Nicolas Sarkozy, on peut le dire pour tous, pour Ségolène Royal aussi. Non, c'est avant les élections que le débat doit avoir lieu et que les candidats doivent savoir dans quelle force politique, comme dit Jean-Marie Le Pen, ils doivent interpréter. Jean-Marie Le Pen, que j'ai, je crois, suivi très loyalement et que je suis toujours volontiers sur l'essentiel pendant des années, a été content lorsque je m'opposais aux dérives de certains entourages de M. Bruno Maigret. Hein, première ligne, mon devoir donc, c'est de continuer sur cette ligne-là, ouverte je suis par ailleurs, donc à toutes les réflexions, parce que la politique, ça n'est pas quelque chose de figé, et j'ai pour ma part effectivement un certain nombre de choses à dire sur les adaptations de la politique, pour ce qui est par exemple de l'Europe, pour ce qui est de l'économique, pour ce qui est du social, mais là, donc ça fait partie des débats qui doivent avoir lieu avant les élections. Il serait extraordinairement grave que nous ayons comme ça une attitude de fidéisme en quelque sorte qui me paraît complètement surannée et archaïque.
Bernard, je vous propose de revenir à la réplique des journaux, puisque c'est le principe de cette émission, et je voudrais en venir au Figaro Magazine du samedi dernier, donc en date de samedi 1er juillet 2006. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un grand cahier qui traitait des questions, les quatre vérités de Dieu, où catholiques, protestants, juifs et musulmans étaient invités à répondre sur des questions de société et des questions de religion. Donc il y avait donc un évêque de France, il y avait pour l'islam Dalil Boubaker, il y avait pour le protestantisme le pasteur Jean Arnold de Clermont, et pour les juifs le grand rabbin Joseph Citruc. Pour le catholicisme était donc représenté par Monseigneur Jean-Pierre Ricard. Alors, d'abord,
on en parlait en début d'émission.
D'abord, Bernard, un commentaire général sur ce cahier. Comment vous a paru le ton de ces questions et des réponses ?
Écoutez, je pense qu'il y a, on va y rentrer parce que c'est un dossier important, que le Figaro Magazine est un journal qui influence. Il y a d'excellentes choses dedans et de moins bonnes, ça n'est pas ma tasse de thé, mais je crois que les questions sont adaptées au public du Figaro Magazine et je crains que les réponses le soient aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le soft et on est un tout petit peu dans ce que j'appelle le marketing. Là aussi, il s'agit de plaire. Avec quand même des nuances que l'on va voir, parce que les quatre répondeurs, si je puis m'exprimer ainsi, je crois que c'est français, Mgr Ricard, le pasteur de Clermont, le grand rabbin Citruc et le recteur Boubaker, donc répondent avec plus ou moins de fermeté et de vérité. Alors, je pense qu'il y a une grande partie de faux-culterie dans certaines réponses, de nunucherie, mais si vous le voulez bien, on peut aller à l'intérieur et je vous dirai comment ces hommes, parce que ces hommes sont interrogés pour peser sur le débat politique aussi, c'est ce qu'il faut bien voir, parce que j'ai souvent entendu, je l'ai entendu des centaines de fois, Jean-Marie Le Pen dire que la politique était sous l'éclairage de la morale. Tout de même, je ne rêve pas, j'ai conservé tous ces discours. Alors une politique qui ne serait pas éclairée par la morale, enfin, mais qu'est-ce que ça serait? Alors effectivement, il n'y a pas confusion entre la politique et la morale, ça c'est de la position des démocrates chrétiens. Hein, ça n'est pas parce qu'on a de bons sentiments qu'on fait de la bonne cuisine. Mais tout de même, on fait de la bonne cuisine à partir du moment déjà qu'on ne met pas du poison dedans. Voilà les rapports de la politique et de la morale. Alors là, dans le Figaro Magazine, interviewé les grands responsables religieux de ce pays, et je crois que leurs réponses sont intéressantes.
Alors, il y a à la fois dans ce cahier des questions qui sont plus politiques, on va dire, et des questions qui concernent plus proprement ou exclusivement la religion. Donc, je vous propose d'aborder les questions politiques. Alors, la première est la suivante. En quoi votre religion est-elle tolérante ?
Oui, alors là, je m'attacherai simplement à la réponse du recteur Boubaker. La réponse du recteur Boubaker, c'est celle-ci, c'est que la doctrine de l'islam et la tradition du prophète et la sunna placent la tolérance religieuse à un niveau jamais égalé dans l'histoire des religions. Non, mais enfin, j'ai beaucoup de respect pour le docteur Dalil Boubaker, mais cette affirmation est pour le moins sujette à commentaire. Ils disent aussi que le christianisme et le judaïsme font partie intégrante de la pensée religieuse musulmane. Il y aurait beaucoup à dire aussi, et je vais y venir. Et puis voilà le recteur qui nous dit l'Andalousie, lorsqu'elle était musulmane, était l'exemple parfait d'une époque au cours de laquelle coexistaient pacifiquement les trois religions du livre. Alors, premier point, et je laisserai de la parole volontiers à Alain sur le dernier. Que l'islam place la tolérance religieuse à un niveau jamais égalé dans l'histoire des religions, c'est une affirmation assez stupéfiante. En tout cas, aujourd'hui, je ne vois pas la tolérance s'exercer au Soudan, au Pakistan, au Nigeria, en Indonésie, et je pourrais continuer longuement, je ne veux pas être fastidieux.
Peut-être donnez-nous quelques faits, parce que tous les auditeurs ne sont pas au courant de ce qui se passe dans ces pays musulmans. Au Soudan, par exemple.
Nous sommes, je rappelle en ce moment même, parce qu'il fallait le faire peut-être avant cette grande question, que nous sommes ici dans le cadre de l'émission de La Réplique, dans l'émission de Serge Debetech, et au micro de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel, sur 95,6
mégahertz.
Donc voici pour les auditeurs arrivés en cours de route. Je réponds maintenant à
alors,
Cécile Montmirail. Pour ce qui est du recteur Boubaker, la tolérance musulmane à un niveau jamais égalé, cela relève de la plaisanterie. le christianisme et le judaïsme qui font partie intégrante de la religion musulmane, alors ça c'est très intéressant, hein, parce que le recteur tout simplement évoque ici que la vraie religion c'est l'islam et que les juifs tout simplement et les chrétiens ont trahi la religion initiale, c'est l'enseignement islamique traditionnel. J'en ai traité dans mon livre ici même à Radio Courtoisie, mon livre s'appelle L'islam sans complaisance, on peut le commander au centre Charlier au prix de 29 € franco de port. Donc voici pour le fond de la question. Mais ensuite, alors là, on revient sur la question du modèle andalou qui est chanté partout aujourd'hui, qui serait en quelque sorte le modèle de la société vers laquelle il faudrait tendre aujourd'hui. Qu'en pense Alain Sanders?
Ben, c'est un sujet effectivement, comme tu le dis, parce que les cahiers de Sciences et Vie, par exemple, viennent de sortir un numéro où on nous donne le ton immédiatement, c'est quand l'Orient civilisait l'Occident. Et cet Orient qui civilisait l'Occident, c'est l'occupation terrible de plus de 8 siècles de l'Espagne chrétienne par les musulmans. Alors je vais rappeler quelques petits faits très rapidement. Quand cette occupation se fait dans cet Andalou, alors à l'Andalous, ça couvre différentes réalités au fil des siècles et des conquêtes et des reculs que faisaient les musulmans. Mais disons que aujourd'hui, ce qu'on appelle à l'Andalous, c'est Séville, Cordoue, Grenade. Voilà. Donc là, à l'époque, au 8e siècle, lors de la conquête, les chrétiens sont même pas majoritaires. Il n'y a que des chrétiens, pour ainsi dire. Il y a quelques vieux visigoths un peu païens sur les bords, mais c'est des chrétiens. Au 12e siècle, dans ce qui reste d'Al-Andalus, de l'Andalousie, il n'y a plus un seul chrétien. Et alors cette tolérance qui se fait, effectivement, il va y avoir ce qu'on va appeler les mots arabes. Les mots arabes, c'est un mot d'un mot arabe qui s'appelle Mustarib, qui veut dire Mustarib, qui a donné mots arabes. Ce sont des chrétiens arabisés. Arabisés pourquoi ? Et pour des raisons soit de peur, soit d'avidité, soit pour avoir des avantages, soit pour ne pas payer l'impôt, etc. Mais les chrétiens qui ne sont pas des mots arabes, et même les mots arabes vivent dans des conditions terribles. Ils n'ont pas le droit de construire de nouvelles églises, ils n'ont pas le droit de sonner les cloches des églises existantes, ils n'ont pas le droit de faire procession dans la rue, ils sont obligés dans la rue de changer de trottoir, les trottoirs n'existaient pas, mais enfin l'équivalent, de changer de côté quand un musulman arrive face à eux pour laisser le passage. Ils paient un impôt très très lourd qu'on appelle la kizia. C'est une situation de dhimmi totale, et on oublie que dans cette Andalousie si tolérante aux yeux de Boubacar, apparemment, et des cahiers de Sciences et Vie, au 9e siècle, il y a ce qu'on va appeler les martyrs de Cordoue. Parce qu'il va y avoir des chrétiens qui, en ayant assez de leur dhimmitude, vont se révolter, vont sortir dans la rue et vont dire du mal publiquement de l'islam. Eh bien, ça ne tarde pas. Entre 850 et 859, plus de 50 d'entre eux seront exécutés dans des conditions terribles. Tout le clergé, ou ce qu'il en reste...
50%.
Non, 50 personnes. Oui, attends, parce que les autres, je n'ai pas fini. Tout le clergé va être arrêté et envoyé en prison. Tout ça, on le retrouve dans les témoignages d'Alvar et de Loge. Et ça va provoquer notamment une fuite des mots arabes vers le royaume d'Asturie et du Léon. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des déportations. Il va y avoir 6 déportations terribles vers l'Afrique du Nord d'esclaves chrétiens. Ceux qui ne sont pas tués seront déportés. Alors il y a des résistances qui s'organisent, déjà des résistances dans les montagnes, au-dessus de Murcie, au-dessus de Valence, au-dessus de Malaga, etc. Mais ça se passe sous les Almohades et les Almoravides. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand, au XIIe siècle, ce qui reste de l'Andalous, avant la reconquête, il n'y a plus un seul chrétien. Voilà la tolérance. Effectivement, c'est la tolérance zéro.
Quand j'entends vos propos, Alain, j'ai le sentiment d'entendre ce que les Coptes nous disent de leur réalité aujourd'hui en Égypte.
Oui, mais je crois que on fait de grands discours, mais la réalité, là, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie ou le Moyen-Orient, étaient des terres intégralement chrétiennes. Aujourd'hui, dans toutes ces terres, en Arabie Saoudite a commencé, mais partout ailleurs, il ne reste plus que des buts témoins de chrétiens. Et partout où ça s'est fait, à l'exemple fabuleux de la résistance et de la reconquista espagnole, qui a duré 8 siècles, mais parce que les Espagnols ont gardé leur religion et leur langue, et qu'ils étaient dans les montagnes, et que c'est des gaillards. Mais nous, on n'est pas comme ça. Et je pense qu'on est, si on ne fait pas quelque chose, on sera demain les Coptes d'Europe.
Et Alain Sanders, je voudrais ajouter que on assiste quand même à une incroyable propagande médiatique et muséo-culturelle, si on peut dire. Il y a eu toute l'exposition à l'Institut du Monde Arabe. Ça se multiplie de façon
Qui est une escroquerie totale. On a eu l'occasion de l'écrire dans Présent, qui est une escroquerie totale. Même ce qu'on appelle les chiffres arabes ne sont pas arabes. Ils sont hindous. Il y a ce qu'on appelle l'arc mauresque est un arc visigothique qui existait déjà, qu'ils ont trouvé sur place. En plus, ce ne sont pas des Arabes majoritairement qui ont envahi l'Espagne, c'était des berbères du Maroc, qui étaient des personnages un peu rustres, et qui, sous l'influence des arabisants, les Arabes ont été effectivement des caravaniers, des transporteurs de civilisations existantes, perses, indiennes ou autres. Mais cette espèce de volonté de nous dire que quand l'Orient civilisait l'Occident, on croit rêver. Voilà.
Donc, on voit bien que M. Boubacar nous raconte des foutaises, et mythifie cette période de l'Andalousie musulmane.
Mais c'est normal qu'il le fasse, lui.
Oui, c'est son rôle.
Mais qu'il n'y ait pas en face un évêque, un pasteur et un rabbin pour le renvoyer dans ses buts, comme dirait Zidane, d'un coup de boule symbolique. Eh bien, c'est grave.
Oui, mais c'est tout. D'ailleurs, le problème de ces interviews croisées où personne ne peut, donc chacun raconte n'importe quoi et puis personne ne réplique. Heureusement, Bernard, que vous êtes là pour répliquer. Alors, passons à une deuxième question. La loi religieuse a-t-elle vocation à remplacer les lois républicaines?
Oui, alors là, d'un commun accord, ils disent tous non, surtout pas, que ce soit Monseigneur Ricard, le pasteur de Clermont, le grand rabbin et le recteur Boubacar aussi. Mais nous aussi, nous disons non, la loi religieuse n'a pas vocation à remplacer les lois républicaines. Mais cela dit, ils sont d'un conformisme affligeant, parce que cette question pose toute la question, justement, des rapports de la loi républicaine avec la loi morale. C'est la question des rapports de Dieu et de César. Quand le Christ dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », et je rappellerai d'ailleurs au grand rabbin Citruc, qui est un homme cultivé, que la question elle est déjà posée avant. Elle est finalement dans le conflit qui va opposer Samuel dans la Bible, qui va opposer Saül à Samuel. Hein, donc c'est déjà très ancien. C'est le conflit entre le prêtre et le roi. Et Samuel n'était pas encore roi, il était juge d'Israël. Alors c'est le vieux conflit donc entre la loi morale et la loi civile. Alors si la loi religieuse ne doit pas remplacer la loi républicaine dans son ordre, bien entendu. Il y a des lois spécifiquement religieuses. Mais ensuite, il y a tout de même la loi morale qui doit éclairer. Le « tu ne tueras pas », c'est le principe fondamental. « Tu ne voleras pas », c'est le décalogue. Alors, je trouve que les religieux, là, auraient pu être plus, en quelque sorte, plus démonstratifs, plus pugnaces. Je suis heureux de voir que le docteur Boubacar, lui, donc affirme son soutien à la laïcité. Nous aussi, nous sommes pour une saine laïcité, qui est la distinction des pouvoirs. Cette saine laïcité, nous aimerions en effet qu'elle soit appliquée dans les pays musulmans. Voilà.
Alors, troisième question. Quand on évoque des conflits de civilisation, ne s'agit-il pas en fait de guerre de religion ?
Oui, alors là, Monseigneur Ricard répond qu'il faut être attentif à ne pas laisser la religion être ainsi instrumentalisée. C'est bien, mais aujourd'hui, à quoi fait-on allusion ? On fait allusion notamment donc à ce qui secoue l'islam dans le monde. Alors, est-ce que l'islam est instrumentalisé ? Il y a une logique du Coran. Dans le Coran, il y a, comme l'a relevé le père Antoine Moussali, 700 occurrences de violence. Alors, est-ce que le Coran est instrumentalisé ? Non, il a sa logique. Le pasteur de Clermont, lui, qui me semble vraiment j'en suis triste parce que j'ai de très bons amis protestants qui m'écoutent en ce moment même à Bazamé, mais ils pensent sur lui exactement comme moi. Il ose dire, il n'y a pas de conflit de civilisation. Il y a des conflits de pouvoir ou d'intérêt, mais il n'y a pas de, somme toute, de conflit religieux. Enfin, de qui se moque-t-on? Ce qui vient de se passer à Bombay hier, hein, est-ce que ça n'est pas un conflit de civilisation? Est-ce que ce n'est pas l'expression d'un conflit de religion? Je prends ce dernier attentat parce que ça, c'est l'énorme choc qui peut bouleverser d'ailleurs toute la planète. Vous vous rendez compte? Le conflit entre les hindous de l'Inde, dont
qui sont des centaines de millions,
et derrière le Pakistan, tout cela avec de l'armement nucléaire, ça peut être tragique. Or, il ne s'agit pas d'intérêt de classe, il ne s'agit pas d'intérêt économique, il s'agit, qu'on le veuille ou non, autrement les mots n'ont plus de signification, du choc entre deux cultures, la culture hindoue et la culture musulmane, et je ne dis pas cela en espérant que cela débouchera sur une guerre. Mon propos serait monstrueux, mais ce qui se passe, vous comprenez, du côté de l'Inde, c'est ce que j'ai voulu dire en début de séance et que je disais dans mon communiqué, c'est quand même plus important, plus angoissant que ce qui a pu se passer autour des matchs de foot, parce que là, je pense que nous vivons repliés comme les autruches dans le sable. Hein, donc l'immense Orient est agité aujourd'hui d'une potentialité de conflit dramatique. Le recteur Boubacar, lui, a raison. Il reconnaît qu'il y a 80 conflits qui ont pour cause des mésententes religieuses. Là, il est meilleur que le pasteur de Clermont. Et quant au Jean Rabin Citruc, qui a l'habitude fréquemment de parler vrai, il sait de quoi il parle. Il est souvent en Israël. Il est vrai que de nombreux conflits relèvent de manifestations modernes des guerres de religion. Parce qu'enfin, tout de même, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, si ça n'est pas du conflit religieux, alors qu'est-ce que c'est ?
Alors, il y a ensuite dans ce document plusieurs questions qui relèvent de la religion à proprement parler. Donc je vous propose de passer rapidement dessus et d'arriver sur des questions qui touchent, comme je vous le disais, le politique. Alors, question sur l'euthanasie. Alors on pose la question à ces quatre représentants religieux. L'euthanasie est-elle condamnable ? Là, pour une fois, la question est directe.
Oui, Monseigneur Ricard répond oui avec donc intelligence, avec fermeté. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Il condamne aussi l'acharnement thérapeutique. Il y a une nuance importante. Je crois que là, nous ne pouvons rien ajouter. Et lorsque nous avons la chance de tenir des propos d'évêques qui sont à la fois fermes, courageux et convenables, nous les félicitons. Le pasteur de Clermont, lui, est beaucoup plus nuancé. Tuer restera toujours un mal, mais il doit être mis en balance avec des mots plus graves. Enfin, on sent très bien là. Donc, une sorte de discours permettant ensuite ce que j'appellerais l'évolution par les cas limites qui sont effectivement en prendre en considération, mais par lesquels ensuite on justifie tout. Le grand rabbin Citruc, lui, est très net. L'euthanasie est une pratique condamnable, puisqu'elle donne à l'homme le pouvoir de s'arroger et de disposer de la vie d'autrui. Je remarque que le grand rabbin ne cède jamais sur rien, et que pourtant il n'est pas très attaqué dans les médias. Il dispose, je pense, d'une grande autorité morale, parce que je remarque que lorsque des dignitaires catholiques s'expriment avec autant de vigueur, on ne les épargne pas du tout dans la presse.
Il faut reconnaître, Bernard, que effectivement les représentants religieux juifs sont sur l'avortement et sur l'euthanasie sont sans équivoque et d'une grande fermeté toujours.
Quant au recteur Boubacar, il dit que l'euthanasie est refusée par la doctrine d'Islam. Mais l'effort spéculatif doit être désormais saisi. Alors là, je dois dire que je ne comprends pas grand-chose. C'est un peu du galimatia.
Je crois que c'est encore du marketing, Bernard Anthony. C'est-à-dire qu'on veut se donner l'image d'une religion qui évolue.
Qui n'est pas ringarde.
Rapidement, la question d'après, parce qu'elle est liée. Peut-on être croyant et en faveur de la peine de mort ?
Oui, alors là, Monseigneur Ricard Non, dit-il, et c'est là que nous sommes en désaccord avec lui, nous ne pouvons jamais désespérer des autres, même des plus grands criminels. Ça n'a jamais été la doctrine de l'Église catholique. L'Église catholique a toujours dit qu'il y avait des êtres qui, par la monstruosité de leurs actes, se dépossédaient de leur dignité humaine. C'est le cas, par exemple, de ceux qui ont martyrisé, torturé abominablement les petites filles d'Alsace, telles que Jeanne-Marie Tegelin, dont nous avons souvent parlé ici. Le père Brugberger, qui a été pour moi un grand penseur catholique, un grand témoin, même si nous étions en désaccord sur d'autres plans, a écrit un très beau livre, Oui à la peine de mort, dans lequel, justement, en tant que chrétien, il dit, peut-être la peine de mort, c'est ce qui permet la rédemption. Alors, il y a une valeur de châtiment qui doit être, je pense, que les ignobles assassins d'enfants, par exemple, je cite ces cas parce qu'ils sont au sommet de l'horreur humaine, méritent la peine de mort. Le pasteur, donc, dit que la peine de mort n'y toute espérance. Alors je suis suffoqué, parce que enfin, quelle est l'espérance chrétienne? Elle est dans l'au-delà. Hein, ce pasteur est athée, en réalité. Oser dire que la peine de mort nie toute espérance, c'est un propos parfaitement athée. Le grand rabbin Citruc, lui, répond que la peine de mort ne peut être envisageable que dans des cas extrêmes. Bon, nous sommes d'accord avec lui, ce sont les cas extrêmes auxquels je viens de faire allusion, et je crois que d'ailleurs, dans le pays qui est cher au grand rabbin, qui est ardemment français, mais ami de l'État d'Israël, on sait appliquer quand il le faut, on l'a vu, la peine de mort dans la pratique, sinon dans la loi. Quant au recteur Boubaker, il dit la peine de mort des hommes est, de notre point de vue, moins grave que le châtiment divin. Voilà, qui est une bonne interprétation de la rigueur musulmane qui applique la peine de mort partout où l'islam donc est au pouvoir, mais là, pas du tout avec la mesure que nous souhaitons. Nous ne souhaitons que la peine de mort, évidemment, dans les cas les plus atroces, dans les cas donc de monstruosité auxquels je fais allusion, en Arabie Saoudite, elle est appliquée avec une facilité tout à fait donc inadmissible, comme dans la plupart des autres pays musulmans.
Je crois qu'il faut répondre là, parce qu'il y a un auditeur qui s'adresse à vous, Bernard, et qui vous soupçonne d'être obsédé par l'islam. Alors il vous dit, il ne faut pas confondre islam et immigration. Il semble moins lutter contre l'immigration que contre l'islam. Votre discours serait américano-sioniste, là je comprends pas beaucoup.
Oui, quand je parle quelquefois de l'islam, je pense que cet auditeur envoie toujours la même question sur le discours américano-sioniste. Alors là, je dois dire, je me pince, parce que ce que je viens de dire n'était pas très américano-sioniste. Je ne suis pas du tout obsédé par l'islam. Je commente en ce moment même les réponses des quatre dignitaires religieux, mais je prends en considération l'islam. Et bien, comme je ne suis pas raciste du tout, et que je suis même le président d'une association antiraciste, je n'ai donc pas sur l'immigration un regard en fonction de l'origine des gens ou de leur couleur de peau. J'ai pour ma part des filleuls vietnamiens, donc de couleur jaune, qui ont parfaitement réussi, et ils sont de bons catholiques et français. L'islam, il y a des musulmans grands blonds aux yeux bleus, parfaitement ariens, et ils sont pour moi, lorsqu'ils imposent leur loi, dont la charia, donc dangereux, parce que je ne veux pas de cette loi totalitaire. Et je prie de croire à cet auditeur que je ne suis nullement américano-sioniste. Ça relève de tout à fait autre chose.
Alors, on va aborder une autre des questions, mais qui est liée et qui va vous donner raison. A-t-on le droit de changer de religion sans encourir la prison ou la mort? C'est important, parce que M. Boubaker, justement, commente ça, et il est bien ennuyé, je crois, Bernard.
Oui, le recteur Boubaker dit ceci, alors cet auditeur va trouver que peut-être je suis obsédé par l'islam, mais je ne suis obsédé que par la réalité. Il y a dans la charia des articles qui punissent de peine de mort l'apostasie. Ben oui, c'est comme ça.
Alors qu'il vient de dire qu'il n'y a pas de peine de mort.
Oui, alors dans la charia des articles qui punissent la peine de mort l'apostasie, c'est le cas dans tous les pays musulmans. qui appliquent la charia, et ils sont de plus en plus nombreux. Alors, en tant que chrétien, je dirais ceci, c'est que, et en tant que français, c'est une exigence que l'on devrait avoir dans la négociation qu'un pouvoir politique devrait exiger des représentants de l'islam en France, que notamment soit considéré comme un droit fondamental, inaliénable, celui de pouvoir changer de religion. Je le dis très clairement, parce que la religion, ça ne saurait s'imposer. C'est une question de liberté fondamentale, et je peux donner là-dessus les textes de mon saint préféré, Saint Bernard. Je voudrais rappeler que nous sommes ici sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel, sur 95,6 MHz.
Alors, je vous propose de passer à une autre série de questions qui est abordée dans ce dossier, et celui qui concerne les femmes. Alors, indépendamment de leurs différences, hommes et femmes doivent-ils être traités également ?
Là, je laisserai volontiers tout de suite la parole à Jeanne Smith qui me regarde, mais je dirais ceci, tout de même, traité également, s'il s'agit d'affirmer l'égalité en dignité de l'homme et de la femme, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs le grand legs de la civilisation chrétienne, parce qu'aucune civilisation n'avait affirmé aussi fortement l'égale dignité de l'homme et de la femme. Mais cela dit, Dieu merci, la femme n'est pas comme l'homme. Elle est différente, donc elle n'est pas égale. Parce qu'enfin, ce qui est différent n'est pas égal. Et j'ai tendance à penser, moi, que les femmes nous sont supérieures en bien des domaines. Fort heureusement, nous sommes complémentaires. Mais par exemple, je vais dire, non, je ne suis pas pour traiter également l'homme et la femme. Et c'est ce que j'ai appliqué dans mon métier. Voyez-vous, pendant 15 ans, j'ai été chef du personnel dans une grande entreprise et j'avais 500 femmes dans le personnel que j'administrais et dirigeais. Je n'ai jamais eu une minute de grève, pas un conflit. Mais je ne traitais pas les femmes de la même façon que les hommes. Je combattais le travail de nuit pour les femmes. Je savais que pour les femmes, il y avait un respect de leur nature, que je savais aussi que certains postes leur convenaient mieux qu'aux hommes, et réciproquement, traiter également comme on le faisait à l'Union soviétique l'homme et la femme, en donnant le marteau piqueur à la femme, c'était une abomination. Alors là, on est dans la démagogie. S'il s'agit d'affirmer l'égalité ontologique essentielle de l'homme et de la femme, bien entendu, mais s'il s'agit ensuite d'affirmer que la femme doit être traitée comme l'homme en tout domaine, non, parce que pour ma part, j'ai une conception chrétienne et française de la femme. N'est-ce pas, Alain, nous n'aimons pas traiter ces dames comme nous traitons les hommes. Il y a beaucoup plus de respect, il y a beaucoup plus de gentillesse nécessaire, d'humour. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, juste un petit mot en forme de boutade. On le disait tout à l'heure, nous avons un petit peu la position de Sacha Guitry sur le sujet. Nous sommes prêts à reconnaître que les femmes nous sont supérieures à condition qu'elles ne se prétendent pas nos égales. À toi, Jeanne.
Oui, je voudrais simplement dire ici combien il est agréable d'être femme dans des milieux dits d'extrême droite, car ça n'est franchement pas désagréable.
Voilà. Alors, autre question sur...
Je voudrais revenir juste une question sur ce que répond le recteur Boubacar. Hommes et femmes sont strictement égaux et le plus faible des deux est celui qui mérite le plus grand soutien. Là, je rigole un bon coup parce que la chimère, c'est quand même autre chose. C'est la femme qui n'hérite pas ou qui hérite peu. Enfin, je vais pas vous faire un cours.
Pour être très précis, c'est la moitié.
C'est la moitié.
Elle vaut d'ailleurs la moitié d'un homme.
Ils sont égaux en droit. Mais il y en a un des deux qui est plus faible.
Elle vaut la moitié exactement dans beaucoup de domaines. Et puis elle a quand même un devoir de rester chez elle et de se voiler qui est très frappant.
Son témoignage n'est pas pris en considération par rapport à celui d'un homme, etc.
Il y a énormément de choses. Il y a
une autre question sur les femmes qui est plus pernicieuse, celle-ci. Une femme peut-elle disposer de son corps ?
Alors là, nous sommes toujours dans le cadre de cette grande enquête religieuse du Figaro magazine que nous avons voulu décortiquer un petit peu. Eh bien, Mgr Riccardi, non, pas plus qu'un homme, très justement. Et le pasteur protestant, son corps lui appartient à elle seule. Et alors, le grand rabbin, est-ce qu'elle peut disposer de son corps? Oui, exactement comme un homme. Ce sont des réponses tout à fait paradoxales de la part de ce protestant et de ce rabbin, et encore du recteur Boubaker qui dit oui, elle peut disposer de son corps à condition qu'elle soit responsabilisée par une éducation qui l'informe valablement pour vivre dignement en société. Là, vous avez la petite phrase
blablabla,
marketing. Eh bien, je crois que personne n'a le droit de disposer de son corps. Notre corps ne nous appartient pas. Nous n'avons pas le droit de nous suicider. Nous n'avons pas le droit, en tant que femme, d'avorter, puisque l'enfant que nous portons ne fait pas partie de nous. Nos corps ne nous appartiennent pas en pleine propriété. Je crois que c'est la seule réponse qui vaille. Et curieusement, je crois que c'est, il faut le noter, seul le cardinal Ricard dit qu'on ne dispose pas de son corps. Et je voudrais ajouter quelque chose qui m'a énormément frappée. C'est une revue qui vient de sortir, qui s'appelle Enjeu les échos. C'est donc une revue destinée aux cadres supérieurs, aux gens qui ont des moyens, etc. Et qui vient de sortir avec une couverture d'une femme nue. On ne voit pas sa tête. Elle est accroupie. C'est une très belle photo, mais elle porte cette inscription. Ceci est mon corps. Eh bien là, vous avez un blasphème pur et dur qui s'étale partout et qui se vend à l'image du porno chic. Je crois que là, vous avez l'image exacte de ce qu'on ne peut pas faire d'un corps humain.
Et qui est dans une revue économique très sérieuse, qui dépend des Échos d'ailleurs, oui, puisque oui. C'est le magazine. Et c'est d'autant plus. C'est pas Charlie Hebdo.
Pour ce qui est de la disposition du corps, je rappelle un argument utilisé sur ce sujet excellemment Jean-Marie Le Pen. Il disait, mais enfin, l'homme ne dispose pas de son corps. Par exemple, lorsqu'on l'envoie faire la guerre, alors, n'en déplaise aux grands rabbins, est-ce que les jeunes Israéliens disposent de leur corps? Non, quand on les envoie faire la guerre, comme d'ailleurs les jeunes arabes tout aussi héroïques en face d'eux, ils ne disposent pas de leur corps. Alors l'État, en effet, reconnaît que l'individu peut être sacrifié pour le bien supérieur, pour la continuité de la communauté de destin que constitue la nation.
Et ici, nous avons d'ailleurs, de la part de religieux, une réponse extrêmement curieuse, sauf celle du cardinal Ricard, c'est de faire semblant qu'il n'y a pas de Dieu qui nous est donné nos corps. C'est bizarre.
Alors, on va peut-être clore cette partie de l'émission. On aura donc compris que ce document, ce dossier, une fois de plus, n'avance en rien, ne donne aucun argument de vérité, et est juste là pour permettre aux uns et aux autres de donner leur opinion presque personnelle sur ce qu'ils pensent de chacune des questions.
Je voudrais que l'on change maintenant, en effet, de préoccupation. Nous allons nous adresser à l'ami Sanders, auteur de livres, et Alain Sanders.
On dit écrivain quand on est poli.
Non.
Auteur
non,
de
non, livres. C'est beaucoup plus ancien. Il y a un peu de légèreté, auteur de livres. Et donc, Alain, tu viens de publier deux livres, l'un dont tu as parlé, donc déjà à Radio Courtoisie, Roger Nimier, Hussard bleu et talon rouge. On sait que Nimier est ton peut-être écrivain préféré, ton écrivain chéri, en tout cas une sorte de grand frère pour toi. Mais surtout, tu viens de répondre à l'actualité avec un ouvrage de moindre dimension pour ce qui est du nombre des pages, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, très bien écrit, La désinformation autour de Marie-Antoinette. Alors, ce livre publié à l'Étoile du Berger, que l'on peut commander, je pense, au journal présent.
C'est plus compliqué, c'est Atelier faut le faire.
Oui.
11 rue des Récollets, 75-010 Paris, 18 euros franco de port, bien sûr.
Voilà. Alors, ce livre répond à l'actualité que l'on donne aujourd'hui à Marie-Antoinette, et notamment le film controversé vient d'être mis sur les écrans.
De Sofia Coppola.
J'ai lu dans la bonne revue, la nouvelle revue d'histoire.
Oui, qu'il ne faut plus appeler comme ça, qu'il faut appeler NRH, puisqu'il y a eu un problème. Mais enfin, c'est l'ancienne nouvelle revue d'histoire.
d'anciennes nouvelles.
À qui on a fait bien des malheurs.
L'histoire. J'ai lu un entretien dans lequel Jean Chalon dit ce, à qui l'on demande « À vous entendre, il semble que ce film soit un navet. » Il répond « Oui, parfaitement, un navet absolu. » Alors, est-ce que pour toi, Alain, ce film est un navet, mais par ailleurs, en quoi il y a-t-il des informations sur Marie-Antoinette?
Ce film n'est pas un navet, et c'est d'autant plus dommage qu'il y ait eu ce film, parce que au départ c'est fait par Sofia Coppola pour rendre sympathique Marie-Antoinette. Mais elle est à côté du propos. Elle en fait un personnage absolument extravagant de notre temps, dans le flot plutôt qu'à contre-flot, et qui n'a jamais existé, qui est complètement réinventé, fantasmagorique, et c'est pour cela que j'ai voulu faire cette petite réponse, pour m'en tenir à la période qu'elle considère, c'est-à-dire jusqu'aux journées d'octobre 89, de l'arrivée de la petite fille qu'elle est à Versailles, jusqu'aux journées de 89. Et les informations sont nombreuses. Celle qui m'a fait bondir, à côté d'erreurs, on n'en finirait plus, d'erreurs anecdotiques, on voit Marie-Antoinette boire du champagne à tour de bras, alors qu'elle ne buvait pas d'alcool, elle buvait que de l'eau, on ne servait pas de champagne à Versailles en plus. On la voit se conduire comme une espèce de Lady Diana, et encore, c'est méchant pour Lady Diana. Bon, mais ce qui m'a fait bondir, c'est le commerce de lit, pour rester dans l'esprit de Radio Courtoisie, qu'on lui prête avec Axel de Fersen. Et ça, c'est absolument imbécile et insupportable. Il n'est pas question de nier qu'elle ait pu être séduite ou amusée par ce bel officier qui portait un bel uniforme. Mais prétendre qu'il y ait eu même des échanges amoureux entre eux, mais a fortiori des commerces de lits entre eux, est complètement aberrant, pour une raison technique, pour une raison simplement matérielle.
Vous parlez de Fersen ?
Oui.
Oui.
On la voit, on les voit tous les deux s'ébattre dans les bosquets au-dessus du hameau de la Reine. Elle avait 2000 serviteurs, Marie-Antoinette. Elle avait autour d'elle sans arrêt des gardes du corps, des dames d'atour, des gens de toutes sortes. Pensez que pas un, et pas un, n'est même commencé de faire un début d'insinuation. Les seules insinuations que l'on trouve sont les libelles qui viennent non pas du peuple, encore une fois, mais de l'entourage et de la cour, qui s'est tiré non seulement une balle dans la tête, mais dans les deux pieds, dans les jambes et partout. Eh bien, c'est malvenu, c'est vouloir salir inutilement sa mémoire. Ça aurait existé, on l'aurait dit. Mais je donne l'exemple. Quand on l'interroge, avant de la condamner à mort, elle l'était d'avance, et qu'on lui dit, qu'on lui a prêté les pires choses, les accusations d'inceste, d'attouchement, des choses ignobles, où elle va même manquer de retourner la foule qui est là plutôt pour crier sa haine. On lui dit, quand vous avez quitté les Tuileries pour partir à Varennes, vous êtes monté dans un carrosse. Oui. Qui vous l'a fourni? Un officier. Il était suédois? Oui. Était-ce Fersen? Oui. Et c'est tout. On est là devant des salopards qui sont en train de lui jeter les pires immondices à la figure, et pas un n'a même la tentation ou l'idée de lui dire « Ah, votre amant », etc., alors qu'on lui a balancé des trucs extraordinaires. Voilà, c'est un petit peu pour ça. Je parle aussi de l'affaire du collier, je parle de toutes ces choses-là, et de cette méconnaissance que l'on a. Marie-Antoinette avait été formée pieusement, moralement et intelligemment, ça n'était pas une écervelée. Elle était peut-être un peu de son âge quand elle arrive. Elle n'a pas tout à fait 15 ans, elle a 15 ans. Bon, et le roi en a guère plus. Ce sont effectivement deux enfants, mais ce ne sont pas deux enfants de la rue. Ce sont deux enfants qui ont été élevés dans des principes très stricts, et peut-être, en ce qui concerne Louis XVI, un peu trop stricts. Parce que ça, il aurait gagné d'être un peu plus conseillé par son Louis XV de grand-père. Mais voilà, il faut pas non plus raconter n'importe quoi. Et ce film, c'est dommage parce que c'est fait pour la rendre sympathique et ça donne une fausse idée de Marie-Antoinette. On la voit se balader, se trémousser, etc. Alors qu'elle avait tout le monde le reconnaît, un port de reine, un coup de cygne, qu'elle était d'une tenue parfaite, etc. Oui.
Alain, dans ton livre, il y a une analyse du contexte donc, dans lequel Marie-Antoinette arrive. Versailles, à l'époque, c'est une jungle, dis-tu. Et tu parles même de cette jungle qui est divisée en tribus. À quoi fais-tu allusion ? Est-ce que ces tribus, parce que, par exemple, tu cites donc les amis de l'Angleterre, l'Espagne, la Prusse, la Sardaigne, les lobbies existaient
bien
déjà.
Bien sûr, les lobbies, les amis du duc d'Aiguillon, les amis du duc de Choiseul, ceux de Madame du Barry, ceux-là sont d'ailleurs plutôt dans le même camp, ils sont pour l'alliance autrichienne. Mais il faut bien comprendre que ce dauphin, qui n'est encore que le dauphin qui va devenir Louis XVI, quand c'est le dauphin du miracle. Et il a deux frères qui sont Provence et Artois, qui vont devenir par la suite Louis XVIII et Charles X, et qui sont qui se conduisent à l'égard de Marie-Antoinette comme des voyous, qui essaient de la compromettre, qui sont en plus jaloux parce qu'ils vont épouser deux princesses de Savoie qui sont pas terribles. Donc ils vont la compromettre. Les libelles qui sont écrits, on parle souvent de Philippe Égalité, le fameux Orléans, mais Artois et Provence ne sont guère mieux en l'occurrence. Et donc, ils vont créer autour d'elle, ils vont essayer de la débaucher, surtout Artois, ça ne marchera pas. Ils vont essayer de lui faire faire des dépenses somptuaires sur tel ou tel sujet, ça ne marchera pas, parce qu'elle résiste tout le temps. Je vais pas raconter le livre ou les détails que je donne, et puis je renvoie surtout à la bibliographie, parce qu'il y a des gens beaucoup plus savants et beaucoup plus complets sur le sujet, puisque c'est un petit livre qui doit aller vite. Oui,
Alain Sanders, vous seriez pas un peu le petit frère de Marie-Antoinette ?
Oh, j'aurais aimé être un garde suisse qui serait mort pour la protéger aux Tuileries, ou j'aurais aimé être le marquis de Bouillé et avoir attendu à Varennes plutôt d'être retourné à Montmédy, et j'aurais aimé être un des cochers du fiacre, parce que je pense qu'on aurait chargé les quelques malheureux qui étaient là, et d'ailleurs qui ne voulaient pas de mal ni au roi et à la reine, on serait arrivé à Montmédy, et de là on aurait reconquis la France.
Elle n'a peut-être pas eu de chance d'épouser un Louis XVI.
Non, il ne faut pas dire ça.
Qu'on rétablit aujourd'hui en grande partie, mais qui tout de même a manqué, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un peu de nerf, oui et non.
Parce que il a été courageux jusqu'au bout, et on peut pas lui reprocher en même temps d'avoir été un roi très chrétien et ses principes très chrétiens lui interdisant de faire couler le sang de ses sujets. Ou alors on est comme Napoléon et on dit quel couillon ce Louis XVI. C'est ce qu'a dit Napoléon. Mais je suis plutôt pour Louis XVI que pour Napoléon.
Oui, on ouvre là
discutable,
un débat très discutable, parce que je pense que beaucoup de sang a ensuite coulé et qu'un peu de fermeté eût épargné beaucoup de sang, notamment à la Vendée.
Certainement.
Merci Alain.
Est-ce que tu me permets de faire une toute petite annonce très courte qui n'a rien à voir? Ceux qui ont suivi nos aventures jadis et naguère, Bernard, se souviennent peut-être que on a aidé les maquis de Contra au Nicaragua et au Honduras. On a gardé des contacts avec eux. Et on a besoin, on en a fait un petit écho dans présent, le secteur Chrétienté et Solidarité Amérique Latine lance ce petit appel. On a besoin d'une petite somme d'argent très rapide pour aider un ancien combattant de la Contra qui est dans le malheur et le besoin. Donc si quelques-uns, c'est pas une somme d'argent énorme, c'est autour de 800-900 euros, si on peut les trouver, on peut me contacter à présent, tout simplement, 5 rue d'Amboise.
Évidemment, tu connais il s'agit.
Voilà.
Et je ne puis qu'appuyer cet appel d'Alain Sanders.
Merci Alain, c'est toujours un vrai bonheur de voir un Français défendre la reine. Passons maintenant à la griffe. Bernard, si vous le voulez bien. La griffe s'est portée partie civile dans l'affaire de l'incendie de l'église de Romans, et je crois qu'il y a du nouveau dans cette affaire.
La griffe est sur beaucoup de terrain, ça me permet de répondre à un auditeur, je reçois beaucoup de bonnes lettres, mais un auditeur qui trouve que nous n'avons pas, ou que je n'ai pas, mené des actions d'envergure, par exemple, avec le docteur Dor, je voudrais apprendre à cet auditeur que le docteur Dor est un ami personnel, qu'il fait partie de la griffe, que nous militons ensemble, que nous combattons ensemble, et que j'ai pour lui évidemment le plus grand respect, et que le docteur Dor lui dira certainement la même chose que moi. Et avant de répondre à cette question, je donne acte à un auditeur aussi, en Tunisie, ce qui est une exception dans la question islamique, les droits de succession sont exactement les mêmes pour les hommes, pour les femmes.
Mais c'est parce que le Coran n'est pas la source du droit en voilà. Tunisie.
Et c'est en partie en voie d'accomplissement au Maroc aussi.
Voilà. Et donc, la vérité est de la vérité, et nous ne nions jamais ces choses-là. Je le dis d'autant plus d'ailleurs que les propos que je tiens sur l'islam sont écoutés par mes amis tunisiens, que je suis allé faire une causerie à Tunis, et que, encore une fois, je ne confonds absolument pas l'islam avec les musulmans qui, dans leur personne, peuvent être extrêmement sympathiques.
Revenons à cette affaire donc de l'incendie
justement.
De l'église. Donc...
Mais ils ne sont pas tous sympathiques, Cécile Montmirail, et c'est ainsi que les Turcs qui ont incendié l'église de Roman, eh bien, eux...
Donc il a donc été établi que c'était des Turcs.
Oui, parce que dans l'affaire de Roman, les incendiaires ont été arrêtés, la griffe est partie civile dans cette affaire-là, nos avocats ont été extrêmement vigilants, Et donc notre avocat maître Fayol à Valence nous a communiqué, il n'y a pas tellement de temps, c'est le 3 juillet, je n'avais pas eu d'émission avant, l'arrestation de messieurs Abdelrahman Djediri, Samir Kawadji, Ahmed Kalistan, Azan Sayan, Azin Sayan, Birol Eidogan, Angelo Favier, Kevin Fournier, donc pour l'incendie de l'église de Roman. Alors nous suivons cette affaire comme nous suivons les affaires un peu partout d'incendies qui se multiplient et qui ont amené, donc qui nous ont amené à manifester notamment à Montpellier le 1er juillet, il y a très peu de temps, samedi dernier, pour protester contre l'incendie d'une école catholique à Montpellier. Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, la libre radio du pays réel sur 95,6 MHz. Mais pour ce qui est de la griffe, l'actualité, comme toujours, est riche. J'eusse aimé que maître Valrand de Saint-Just vienne ici pour en parler plus longuement. Nous avons, avec stupéfaction, appris que le jugement que nous avions eu de positif en première instance et en appel dans l'affaire de Sainte-Capote à Toulouse a été cassé par la Cour de cassation alors que on ne nous avait même pas informé de ce procès. Et je dois dire que nous sommes surpris aujourd'hui de certaines légèretés de la Cour de cassation. Nous allons revenir devant une cour d'appel. Nous allons nous battre dans cette affaire-là parce qu'elle est extraordinaire. Elle montre, je crois, la banalisation du racisme et de la dérision antichrétienne, et inutile de dire que nous allons donc nous battre sur cela. Voici pour ce qui est de la griffe. Par ailleurs, on a lu dans la presse que les poursuites contre le rappeur donc Richard Makela alias Monsieur R qui a commis des chansons entre guillemets contre la France parfaitement ignobles, que les poursuites donc qui avaient été diligentées par un député UMP des Pyrénées-Orientales, Monsieur March, donc avaient été déclarées irrecevables. Alors j'avais écrit à ce député que il n'avait aucune chance d'être entendu par la justice, parce que c'est ainsi la loi qui a été votée par la majorité dont il fait partie, ou plutôt par les prédécesseurs de cette majorité, fait que seules des associations donc antiracistes déclarées, reconnues par les tribunaux, dont c'est l'objet social, peuvent aller devant la justice, et il a voulu faire cavalier seul. Je lui avais proposé de mener cette action-là avec la GRIF. Il n'a pas voulu. Alors, c'est vrai qu'il est déclaré irrecevable pour de simples questions de procédure, enfin, pour en raison de la non-adéquation de sa plainte avec le système juridique actuel. Mais cela est grave, parce que c'est considéré comme une victoire des rappeurs. On ne dit pas les rappeurs ont perdu parce qu'on a
pour vice de forme, oui.
Contre une plainte qui n'est pas possible possible de par la loi, on dit ils ont gagné. Alors, ils n'ont pas gagné.
Et oui, parce que je crois que la griffe a porté
plainte. Ils n'ont pas gagné. Je l'ai fait savoir à M. Marsh, qui n'est pas très très content, mais c'est comme ça. Hein. Il n'a qu'à changer la loi, après tout. Hein. Il n'a qu'à parler à M. Sarkozy, et nous serions assez favorables, même totalement, à une bonne évolution de la législation dite antiraciste. Je ne vais pas en traiter ce soir sur le fond. Mais, pour ce qui est de la griffe, son action continue, et nous espérons bien que nous obtiendrons devant le tribunal la condamnation pour de Monsieur R, comme nous la demandons contre Sniper ou contre d'autres groupes, donc de rap racistes, hein, parce qu'il s'agit bien de cela, de racisme anti-français à l'état pur. Hein, donc on ne supporte pas par ailleurs le moindre dérapage, le moindre mot. Enfin, on poursuit encore Jean-Marie Le Pen pour un propos enfin qui relève du débat historique, enfin c'est tout de même inadmissible. Et lorsqu'il y a de véritables appels au meurtre, au viol, donc on ne condamne pas. Donc la griffe continue, et c'est pour cela que je fais appel inlassablement à l'adhésion. Je rappelle que la griffe se bat spécifiquement sur ce créneau, qu'elle n'est liée d'ailleurs à aucune autre organisation, à aucun parti, qu'il y a en son sein des royalistes et des républicains, des gens très proches comme moi, son fondateur du Front National, d'autres qui sont chez Philippe de Villiers, d'autres chez Maigret. Nous les prenons partout, parce que là, c'est l'unité de la résistance nationale sur ce créneau de la loi dite antiraciste que nous voulons affirmer au-delà quelquefois de nos différences et de nos légitimes divergences.
Je rappelle que l'on peut adhérer à la griffe en envoyant un chèque de 10 euros au 70 boulevard Saint-Germain. Ce sont les adhésions qui permettent à la griffe de mener ses procès. Autre affaire, je crois, Bernard, c'est l'affaire Canal+, et qui concerne le pape Benoît XVI.
Oui, alors cette affaire Canal+,
rappelez peut-être les faits.
Oui, je rappelle que immédiatement après l'élection du pape Benoît XVI, sur la chaîne de télévision Canal+, nous avions avait été présenté le pape Benoît XVI déguisé, grimé en Adolf Hitler. C'était évidemment une injure, une dérision contre le pape, une injure aux catholiques, et nous avions annoncé que nous portions plainte immédiatement. Cela a été fait, nous sommes sérieux, nos avocats sont sérieux, la plainte avait été immédiatement déclenchée, et notre action a été déclarée recevable. Un juge d'instruction mène son instruction, et nous attendons maintenant le procès.
Donc on le voit, la griffe mène ses combats et obtient des résultats.
En tout cas, le seul fait déjà de pouvoir aller en justice, de mener des procès, manifestant ainsi l'exaspération d'une grande partie du peuple français, hein, que ce soit au nom de ses sentiments religieux, que ce soit au nom de son appartenance nationale, c'est, je crois, déjà très bien. Nous sommes seuls à faire cela, parce que à ce jour, les autres organisations soi-disant antiracistes n'ont jamais mené la moindre action donc contre les actes de racisme anti-chrétien ou anti-français. Un auditeur nous fait passer un message, un de plus force sympathique. Nous demandons ce qu'on pourrait faire contre ces personnages qui racontent des inepties sur un grand personnage de l'histoire de France comme Marie-Antoinette. Alors là, ce que nous pouvons faire, c'est répliquer comme nous le faisons avec Alain Sanders. Vous savez, nous ne sommes pas nous pour faire des procès en tout domaine, dans tous les ordres. C'est parce qu'il y a une loi.
Et surtout pas des procès historiques.
Et surtout pas des procès historiques. Alors ça, qu'on ne confonde pas, nous sommes pour la réplique. C'est ce que nous faisons ici, et je crois que notre dictionnaire de la réplique continue d'ailleurs à bien marcher. Je me permets de rappeler, car souvent on nous dit où en est le dictionnaire de la réplique, eh bien je réponds à son 5e tirage, et ce sont des centaines d'étudiants aujourd'hui qui sont venus l'acheter au siège du Centre Charlier de la Griffe, 70 boulevard Saint-Germain, donc dans le 6e arrondissement. Nous considérons que tout ne doit pas relever des tribunaux. Le débat historique doit relever du débat historique. Il y a encore des questions, je crains de ne pas pouvoir répondre à toutes ces questions-là, seulement
peut-être un mot,
dernière, vite.
Peut-être un mot, Bernard, juste sur la mosquée de Marseille, pour un coup de gueulante.
Cette mosquée de Marseille, là aussi, vient d'obtenir donc une aide très importante de la municipalité de Marseille, de 4 millions d'euros. Nous estimons que cela n'est pas admissible, que c'est aux fidèles musulmans de payer, mais encore une fois, nous sommes en fin d'émission et je tiens à remercier les auditeurs de Radio Courtoisie et je leur donne rendez-vous au mois prochain.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 12 juillet 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 13 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire.